Bonjour, mon nom est Catherine Doré. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Voix de la librairie, enregistrée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean à Québec, et diffusée sur Radio Fiat Lux. Alors, cette émission sera la dernière de la saison, c'est-à-dire qu'on va faire une petite pause de 2 mois durant l'été, et normalement, nous débuterons une deuxième saison en septembre. Le mois dernier, je vous avais promis une émission sur la littérature québécoise pour terminer la saison. Sauf que, il y a un autre sujet qui s'est, imposé à moi. Je vous rappelle que la formule, ou plutôt la mission de la Voix de la librairie, c'est d'abord de parler de livres, bien sûr, mais surtout de donner l'occasion aux amis de la librairie de participer à ce happening du premier lundi du mois, soit en parlant d'un livre, d'un sujet littéraire ou d'un événement qui a lieu à la librairie durant le mois. Et je me suis rendu compte dernièrement que toutes les discussions semblaient tourner autour d'un même événement, un événement qui est en train de secouer tout le Québec, il faut le dire, et il s'agit bien sûr de la contestation étudiante. Donc, on va parler aujourd'hui de sujets qui tournent autour de ce bouleversement social qui était totalement inattendu et qui a pris beaucoup de place dans les chaumières. Alors d'abord, PA va nous parler du livre « Université Inc. » publié chez Lux en 2011, afin de faire le point sur toute la question du financement des universités. Ensuite, Samuel et Benjamin nous entretiendront du mouvement de mobilisation à Québec même, la ville, qui semble toujours être une exception au Québec. Ensuite, je ferai un bref tour d'horizon des questions qui ont été soulevées durant le conflit étudiant. Puis, notre libraire, David, parlera d'un livre un peu oublié, mais qui est redevenu terriblement actuel, « La désobéissance civile » de David Thoreau, publié en 1849. Roxane présentera une revue de presse sur la loi 78. Et finalement, Jean-Philippe nous entretiendra de l'après-crise. On essaiera de voir si tout ce branle-bas pourrait déboucher sur quelque chose. Alors, on va commencer l'émission tout doucement, avec une pièce assez longue, une pièce qui dure 16 minutes, un texte de Léo Ferré, enregistré en 1972 et qui nous a paru très pertinent pour débuter l'émission, et ça s'intitule « Il n'y a plus rien ».
Écoute, écoute. Dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture, immobile. L'immobilité, ça dérange le siècle. C'est un peu le sourire de la vitesse, et ça sourit pas l'herge, la vitesse, en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne, ou à Tahiti. C'est vraiment con, les amants. Il n'y a plus rien. Camarade maudit, camarade misère. Misère, c'était le nom de ma chienne qui n'avait que 3 pattes. L'autre, le destin la lui avait mise de côté pour les olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère, dans des chaos, quelque part dans la nuit des chiens. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi? Quand tu rentreras dans ta boîte, rue d'Alésia ou du Four. Si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en, dans le matin clairé, seul, te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée, fous-lui une baffe, comme à une corinne syncope ou une crise de nerfs. Tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide sénescence? Dis, t'as pas honte alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes, et barre-toi, divorce-la, te marie pas, tu peux tout faire. Tant pas que t'es dans le désordre pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir, il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage parce qu'il se fait chier à être blanc, ce nègre. Il en a marre qu'on lui dise sale blanc. À Marseille, la sardine qui bouche le port, était bourré d'héroïne. Et les hommes grenouilles n'en sont pas revenus. Libérez les sardines et il n'y aura plus de marées. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait du doigt dans la rue. Alors, il vaut mieux que tu ne saches rien. Comme ça, au moins, tu es peinard, anonyme, citoyen. Tu as droit, citoyen, au minimum décent, à la publicité des enzymes et du charme, au trafic des dollars et au trafic en armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend et, si tu veux l'apprendre, elle te fera du charme avec le vent au cul et des sextants d'alarme. Et la mer reviendra sans toi si tu es méchant. Les mots, toujours les mots, bien sûr. Citoyen, aux armes. Au pépé, citoyen. À l'amour, citoyen. Nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments en airain. Un coup d'aile d'oiseau ne les entame même pas. C'est vous dire, nous ne sommes même plus des juifs allemands. Nous ne sommes plus rien. Il n'y a plus rien. Des futales bien coupées sur lesquelles lorgnent les gosses, certes. Des poitrines occupées, des ventres vacants. Arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leurs gamelles sur les plages reconvertisées des moustiquaires, c'est-à-dire en enfer. Là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnu par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sur les pavés, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et la sécurité. Notre vraie vie n'est pas ailleurs, elle est ici. Nous sommes au monde, on nous l'a assez dit, n'en déplaise à la littérature. Les mots, nous leur mettons des masques, un paillon sur la tronche. À l'encyclopédie, les mots, et nous partons avec nos cris. Et voilà, il n'y a plus rien, plus rien. Je suis un chien, perhaps, je suis un rat, rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue, nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu, fous en l'air tes pantoufles, renverse tes chaises, mange debout, assois-toi sur des tonnes d'inconvenances et montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principe. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors sors, marche, crève, pèse, aime enfin les arbres. Les bêtes, et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche ces notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien, il n'y a plus rien, plus rien. Invente des formules de nuit, c'est CLN, c'est la nuit, même au soleil. Surtout au soleil, c'est la nuit, tu peux crever. Les gens ne retiendront même pas une de leurs inspirations. Ils canaliseront sur toi leur air vicié en des regrets éternels puant le certificat d'études et le catéchisme ombilical. C'est vraiment dégueulasse. Ils te tairont, les gens. Les gens taisent l'autre, toujours. Regarde à table quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé. Ils se dépassent d'eux-mêmes et s'en vont vers l'ordure et le rôle ponctuel. La ponctuation de l'absurde, c'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux. Comme à l'atterrissage, on rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frigidi, de l'organe, du repu. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète, où les bouchers vendaient de l'homme à la criée. Moi, je suis de la race ferroviaire, qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes, nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors, bectons. Côte à l'os pour deux personnes. Tu connais? Heureusement, il y a le lit, un parking. Tu viens, mon amour. Et puis, c'est comme à la roulette, on mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre, et ils mettent. Le drame dans le couple, c'est qu'on est deux, et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je change de trottoir. Ne marie pas, ne vote pas. Sinon t'es coincé. Elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux.
dans les bras, dans nos futales. Elle s'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte. Elle était comme morte. Elle sommeillait. On l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. Transbalutez vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière. Rien dans les mains. Rien dans les poches. Tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer? Non. Comment vous nommez-vous? Karl Marx. Allez, passez! Nous partîmes! Nous étions une poignée! Nous nous retrouverons bientôt démunis, seuls, avec nos projets dans le passé! Écoutez-les! Écoutez-les! Ça rappe comme le vin nouveau! Nous partîmes! Nous étions une poignée! Bientôt, ça débordera sur les trottoirs! La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant! Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule! Toutes des concierges, écoutez-les! Il n'y a plus rien! Si les morts se levaient, hein? Nous étions combien? Ça ira. La tristesse, toujours la tristesse. Ils chantaient dans les rues de Maripa, ceux de San Francisco, de Paris, de Milan, et ceux de Mexico, bras dessous, bien accrochés aux rêves. Ne vote pas, ô DC-8 des pélicans, cigognes qui partent à l'heure. Labrador, lèvre des puissants. J'invente en bas des rênes bleues, un habit rouge du couchant. Je vais à l'ouest de ma mémoire, vers la clarté, vers la clarté. Je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis 100 000 watts. Des circuits sont en panne dans le fond de ma viande. J'imagine le téléphone dans une lande, celle où nous nous voyons, moi et moi. Dans cette brume obscène, au crépuscule teint, je ne suis qu'un voyant embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent, je ne suis qu'un binaire. Mon fils, il faut lever le camp, comme lève la patte. Il est tôt, lève-toi, prends du vin pour la route. Dégaine-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils, vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras, tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi, tu rentreras dedans. La mue, ça se fait à l'envers. Dans ce monde inventif, tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Retourne tes yeux au-dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans les velours glacés, soumis, mollasses, que ces horribles magasins roulants qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire « Monsieur, madame, laissez donc ces gens-là tranquilles, ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par les veilles soucieuses, et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous. Ce qui vous déshonore, c'est la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs, vous êtes puissants au point de vous refléter tel que vous êtes, cravatés, envisonnés, en papaoutés de morgue et d'ennui dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous vous êtes arrangés pour soumettre à un point donné, à heure fixe, pour vos narcissiques partout. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire, avec cet apparat vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer, parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous vous arrangez la veille. Toujours la veille pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige des déracinés, les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et quand on vous transmahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, un ordre nouveau, vous faites greffer au retour et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas? Et les vauriens qui vous amusent, ces vauriens qui vous dérangent aussi, on les enveloppe dans un fait divers, pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous vous croyez toujours, vous autres, dans un haras. La race, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivez même à vous parler à vous-même comme si vous parliez à vos subordonnés, de peur de quitter votre stature, vos boursouflures, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise « Viens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper, soyez tranquille. Pour la réputation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure. Cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'a pu vous coûter de silence aigre, de renvois mal aiguillés, de demi-sourires séchés comme des larmes, ce ruban malheureux et rouge comme la honte, dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi la nature met tant d'entêtement, tant d'adresse et tant d'indifférence biologique à faire que vos fils ressemblent à ce point à leur père, depuis les jupes de vos femmes matrimonières jusqu'aux salonnardes équivoques. Vous les dressez à boire dans votre grand monde, à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil, sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout, et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridicaux pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans.
Alors, c'était « Il n'y a plus rien » de Léo Ferré. Et on est de retour avec PA. Bonsoir, PA.
Bonsoir.
On va essayer de faire ensemble le point sur les fameuses augmentations de frais de scolarité dont on entend parler abondamment depuis 4 mois. Et tu vas nous parler d'un livre qui s'appelle « Université Inc. » publié chez Lux Éditeur et qui a été écrit par Éric Martin et Maxime Ouellette, qui sont des diplômés en sciences politiques, c'est ça?
Oui, exactement. Éric Martin, qui étudie la politique, est au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Et il est également chercheur à l'IRIS, qui est l'Institut de recherche et de formation sociologique, qui est un institut, en fait, indépendant financièrement de toute subvention, de soit des grandes entreprises et ou du gouvernement, ce qui, théoriquement, est censé garantir son objectivité.
Ce sont des gens qui parlent beaucoup de l'actualité, hein. Ils ont tendance à écrire
tout à fait.
Sur tout ce qui
pour en ce qui concerne Éric Martin, lui, il est également journaliste de formation.
Ah, d'accord.
Et Maxime Ouellette, qui est également chercheur postdoctoral, lui, à l'UQAM, je crois, et il est à la chaire de recherche MCD, donc Canada et mondialisation.
Et ces deux diplômés-là, donc, en sciences politiques, ont décidé de démonter les mythes sur la hausse des frais de scolarité. Et qu'en est-il?
Oui, exactement. Donc, eux, ils s'intéressent justement à toute la question là, de l'augmentation des frais de scolarité. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont écrit cet ouvrage-là en 2011. Donc, c'est tout récent et ça a été écrit là, juste un peu avant. Ça a été publié juste un peu avant le déclenchement de la grève, etc. Et puis, donc, eux, ils s'attaquent à 8 mythes. Concernant le sous-financement des universités, la hausse va favoriser un meilleur enseignement, etc. Mais moi, je propose de pas nécessairement le résumer mythe par mythe, mais plutôt de s'attarder au grand thème là, qui traverse ce livre-là.
OK.
Et je pense que ce qui en ressort principalement de leur étude, c'est que... ce qu'on traverse actuellement, c'est une transformation du rôle de l'université, qui est une transformation qui a débuté il y a peut-être 20-30 ans, mais qui s'accélère.
Moi, je dirais 30 ans.
Je dirais 30 ans aussi.
Que quand j'ai commencé mon université dans les années 80, je voyais déjà ce qui s'en venait et j'avais l'impression que c'était en train de changer.
Puis là, il y a une accélération de cette transformation-là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'université, qui traditionnellement est un lieu de transmission de la culture, d'enseignement, de l'héritage humaniste, qu'on remonte à la tradition grecque ou à la tradition... toute l'histoire, les sciences sociales, ce que les Anglais appellent les humanities,
les
finalement.
Les humanities, oui.
Donc, l'université, de lieu de transmission de la culture, est en train de devenir... est en train d'accélérer là, sa transformation en lieu de production économique dans le cadre de ce qu'on appelle communément l'économie du savoir. Et puis, qu'est-ce que l'économie du savoir? On en entend souvent parler, on lance ce concept-là à gauche et à droite. On fait bien des choses au nom de l'économie du savoir, mais ça reste un peu flou. On ne sait jamais vraiment en quoi ça consiste. Et puis, la manière dont Maxime Ouellette et Éric Martin le présentent, c'est qu'en fait, l'économie du savoir, ça repose, en fait, c'est l'idée que le savoir est un savoir à condition qu'il puisse être marchandisé. Qu'il puisse devenir une marchandise. Donc, on pense notamment à tout ce qui est recherche et développement, mais surtout aux brevets. Donc, c'est un savoir que l'on peut vendre sur un marché boursier, donc qui est utilisable au niveau... technologique, c'est-à-dire qu'il y a des applications immédiates, que ce soit dans les téléphones intelligents ou dans par exemple la pharmacologie ou la microbiologie, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que le rôle de l'université bascule d'un lieu d'enseignement vers un lieu de production. Du savoir marchandisable. Et les grandes lignes de cette métamorphose peuvent se résumer finalement à un réalignement du modèle de l'université québécoise sur le modèle anglo-saxon. Oui. Ce qui se passe plus globalement dans la société, c'est que l'université va être instrumentalisée à des fins strictement économiques. L'université devient une université de recherche en sous-traitance. Les compagnies, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'industrie pharmaceutique, par exemple, ou l'industrie de la microbiologie, les nanotechnologies, eux, c'est extrêmement rentable pour eux. C'est beaucoup moins coûteux pour eux de faire leur recherche par les facultés universitaires que de former leurs propres chercheurs, que d'ouvrir leurs propres centres de recherche et développement.
Souvent, ils ouvrent une chaire à leur nom. Ils donnent un peu d'argent.
Exactement.
Puis ensuite, ils retirent.
Exactement. Ils donnent de l'argent. Et puis, comme on le voit, cet argent-là, ils donnent énormément d'argent, mais la transformation qui est nécessaire est très coûteuse. Et l'argent qu'ils donnent, même si c'est souvent des sommes colossales, est un peu trompeur. Ça peut être trompeur, là.
Oui.
Mais on va y revenir. Pardon. Donc, c'est ça, l'université devient une université de recherche en sous-traitance. Ensuite, de plus en plus, on voit l'élaboration de programmes sur mesure, faits sur mesure pour répondre aux besoins de l'industrie. Mm-hmm. Donc, c'est comme si un peu, finalement, l'université a devenu un gros centre de DEP qui crée des scientifiques prêts à aller travailler dans les usines de montage d'éprouvettes, finalement. Là. C'est une sorte de taylorisme de la science, tu sais.
Ah oui. Ah oui.
Selon toujours Université Inc.
On forme les gens spécifiquement en fonction des besoins de l'industrie.
Exactement. Ensuite, il y a ça s'accompagne d'une dévalorisation de savoir fondamental, l'héritage humaniste, comme on disait tout à l'heure.
Je me dis, je ne veux pas interrompre ton exposé, mais je me dis, à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas aux industries de payer pour la formation, vu que la formation est faite spécifiquement pour les besoins de l'industrie, ça ne serait pas comme logique que l'industrie paye pour former, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me semble...
C'est ça, c'est ce qui se passe, en fait, c'est que, oui, l'industrie verse quand même des crédits là, aux universités pour subventionner la recherche, évidemment, si c'était aussi coûteux de le faire à l'université que de le faire chez soi, il n'aurait pas recours à ce moyen-là. Donc, il y a un net avantage parce que les installations, elles sont déjà présentes. On a les structures qui sont en place, la connaissance. pardon. Mais c'est certain que... ils devraient donner leur juste part, si on peut parler de l'argument de la juste part ici, mais s'ils avaient à le faire, probablement qu'ils se retireraient parce que ça ne serait pas avantageux pour eux. Mais bon, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de, couches là, théoriques, si on veut bien comprendre le sujet. Donc, pour en revenir finalement au réalignement sur le modèle anglo-saxon, l'université devient une université de recherche en sous-traitance. Les programmes... On instaure des programmes sur mesure pour répondre aux besoins de l'industrie. Ensuite, il y a une dévalorisation du savoir fondamental, de l'héritage humaniste au profit des savoirs techniques, cette espèce de nouvelle idée de la connaissance. On forme des gens très, très, très spécialisés dans un domaine, comme par exemple les nanotechnologies, l'étude des matériaux infiniment petits. Alors, on forme des gens qui savent absolument tout sur, finalement, absolument rien.
C'est que... Et pendant ce temps-là, on a de plus en plus l'impression que les humanités deviennent... ont moins d'importance.
Exactement. Ça devient...
On appelle ça les sciences molles. On dit que ça sert à rien.
Qu'on est dans un contexte très d'utilitarisme économique. Voilà. C'est-à-dire que les sciences sociales ne produisent pas de brevets, ne produisent pas d'idées marchandisables. Donc, selon l'idéologie en place, elles n'ont pas de valeur. C'est toute la dimension culturelle du savoir qui est évacuée de l'analyse.
Ouais.
Ce qui est bon, c'est dans le cadre idéologique actuel là, du remaniement de l'université, ce qui a une valeur, c'est ce qui est marchandise, être
le
vendu.
Le savoir, c'est ça. C'est donc, ça l'économie du savoir.
Exactement.
Finalement.
Donc, c'est ça. Quand notre élite en place nous parle d'éducation, en fait, ce dont elle nous parle, c'est d'économie. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, il y a un remaniement donc de l'université qui fait qu'il y a également une dévalorisation de l'enseignement au profit de la recherche. Hein. Les professeurs de plus en plus délaissent l'enseignement pour s'orienter vers la recherche parce que c'est beaucoup plus payant. Alors, on doit faire affaire avec des chargés de cours. Alors, la qualité de l'enseignement diminue.
Ouais.
Mais là, après ça, on est en droit de se demander, comment est-ce qu'on peut vraiment espérer former... des bons chercheurs si l'enseignement, la qualité de l'enseignement diminue
puis c'est donné par des chargés de cours.
Exactement. Ouais. Je voudrais pas dire que les chargés de cours donnent pas un bon enseignement parce que, c'est pas la question.
Mais c'est parce que c'est pas ça le principe de base de l'université. Le principe de base de l'université, c'est d'aller chercher des gens qui sont hyper spécialisés dans un domaine et qui transmettent leur savoir ensuite à des plus jeunes.
Et c'est de moins en moins ce qui se passe. Donc, justement, j'avais gardé une citation là, des deux auteurs qui résume, à mon avis, assez bien la situation. Ils disent « L'université se trouve écartelée entre deux missions. recherche et enseignement. Et la recherche semble être en voie de dépasser l'enseignement dans l'ordre des priorités, alors qu'au départ, l'université était destinée à la transmission de la connaissance. Donc là, maintenant, l'université n'est plus destinée à la transmission de la connaissance, elle est destinée à la production d'un savoir marchandisable. Et étant donné qu'elle est un moyen de production, si on s'en remet à une analyse marxiste ou néo-marxiste, les moyens de production doivent être contrôlés par l'élite économique, et c'est ce qui se passe. C'est qu'on voit qu'il y a une élite économique qui veut s'approprier l'université plus qu'elle est un moyen, la transformer de l'intérieur en moyen de production économique. Ce qui nous amène à une université qui est organisée selon un modèle clientéliste, c'est-à-dire que finalement, on vend des diplômes. Plus le diplôme est cher, plus il a de la valeur. Moi, je suis, par exemple, j'ai étudié à McGill, mon diplôme, mon MBA m'a coûté 25 000, donc il vaut plus qu'un MBA de l'Université Laval qui n'a coûté que 5 000. Donc, on est dans une logique vraiment du prix coûtant, etc. Donc, ce à quoi on assiste finalement, c'est une reconversion commerciale, une reconversion de l'université en entité commerciale. Et comme le soulignent les auteurs, ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas la commercialisation de la recherche qui va servir à financer l'université. C'est-à-dire que, bon, la vente des brevets, etc., ne servira pas à financer l'université. Mais c'est plutôt la commercialisation de l'université qui va servir à financer la recherche. C'est-à-dire que on va faire en sorte que l'université soit... on va augmenter les frais de scolarité, on va faire de l'université quelque chose de privé. Hein. On va la rendre plus chère, et c'est ça qui va servir à la commercialisation, à payer pour la commercialisation de la recherche. Okay. C'est donc finalement de dire que on va transformer l'université en une entité qui produit du savoir au profit des compagnies qui ont besoin de vendre ces brevets. Et puis, on va faire payer les étudiants pour cette transformation-là. Ouais. Donc, c'est un peu la logique habituelle du capitalisme.
Et ce qui est absurde, c'est que les étudiants qui s'adressent directement à cette transformation-là semblent d'accord.
Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans le système actuellement à qui ça profite, finalement, si vous étudiez.
Parce qu'eux, ils voient l'horizon d'avoir un salaire en conséquence.
Oui, exactement. Ce qui, dans plusieurs cas, dans bien des cas, est une illusion qu'on fait miroiter. On connaît plein de gens qui ont étudié, que ce soit en optique photonique ou en des domaines vraiment de pointe
très pointu,
et qui finalement travaillent à la bibliothèque municipale. Hein?
En effet.
Bon. Donc,
c'est bien de le souligner quand même.
Mais c'est certain que je suis certain qu'il y en a parmi eux qui se placent à la NASA ou etc. Et qui ont des salaires en conséquence, mais bon. C'est pas toujours la norme. Alors, on se retrouve avec des étudiants qui paient plus cher pour moins de services, avec des programmes dont la pertinence intellectuelle laisse à désirer, s'ils sont rentables finalement. La pertinence intellectuelle est reléguée au second rang face à la rentabilité économique des programmes. Donc, c'est ça. La seule richesse qui est considérée dans l'analyse, c'est celle qui est marchandisable. Et la culture, ça ne cadre pas dans l'analyse. Donc, la transformation qui est en cours au sein de l'université au Québec équivaut finalement à un appauvrissement culturel. Peut-être que ça pourrait contribuer à l'enrichissement économique de certains et de la société en général. Je me le demande parce qu'on sait très bien que même si les riches s'enrichissent, ceux qui sont en dessous, c'est plus long avant qu'ils en reçoivent les dividendes. Mais bon, si jamais ça s'emmenait à contribuer à l'enrichissement collectif, ça va nécessairement contribuer à l'appauvrissement culturel d'une société parce que de former des gens en histoire, en anthropologie, en philosophie, en sciences politiques, ça ne fait pas nécessairement une grande différence au niveau économique, mais ça fait profiter la société en général, parce que celui qui a développé son esprit critique, qui sait bien s'exprimer, qui connaît l'histoire de son pays, de sa civilisation, etc., en fait profiter les autres autour et pas seulement son portefeuille, parce qu'il connaît les tableaux périodiques, bon, etc.
Je suis parfaitement d'accord avec toi, sauf que moi, je vois tranquillement que de plus en plus, on nous fait croire que ces formations-là sont inutiles.
Oui, exactement.
Et même nuisibles.
Oui, exactement. De plus en plus, on se sent presque coupable hein, d'étudier ouais. dans les humanités.
Et puis, on nous dit que ces étudiants-là, ouais. en plus, ils sont dérangeants, c'est des chialeux et des paresseux.
Ouais.
Et
à quoi ça sert d'étudier en littérature?
Voilà.
Hein, je me sens entre guillemets. Mais...
Voilà.
Bon, déjà, la question en elle-même dévoile que notre système d'éducation est lacunaire, parce que si on n'a pas compris que tout ça avait une importance et une utilité, et quand j'utilise le mot utilité, je fais attention de ne pas tomber juste dans le piège, dans l'utilitaire économique. Mais bon, là, il y a un appauvrissement culturel, finalement, qui est à l'horizon, là, si on suit cette logique.
Net.
Et j'avais gardé une citation également. Les auteurs disent, bon, d'Université Inc., n'est-il pas inquiétant de penser que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes du système scolaire, pardon, sont mus par une idéologie qui n'attribue à l'éducation aucune pertinence propre et qui n'en mesure l'utilité qu'en termes quantitatifs et économiques? Ces gens-là n'aiment pas la connaissance ni l'université. Ils aiment d'abord l'argent et ne voient dans l'école qu'un outil de plus pour accélérer la dynamique d'accumulation capitaliste. Bon, c'est clair que les auteurs d'Université Inc. Font, à mon avis, une analyse marxiste ou néo-marxiste du système. Mais je pense que c'est un point de vue qui est tellement loin de ce qu'on nous communique dans les médias, c'est tellement loin de notre quotidien qu'il est extrêmement rafraîchissant, finalement, de
Absolument. Moi, je suis très contente d'entendre ça. Puis, il faut rappeler, comme tu le disais tout à l'heure, l'importance des intellectuels dans une société.
Exactement.
Le rôle de communication de la culture.
Exactement. Et d'ailleurs, où sont-ils, les intellectuels?
Excellente question. On n'en forme plus, alors.
De moins en moins. Hein.
C'est ça, c'est pratique.
Donc, en définitive, on hausse les frais de scolarité pour faire payer les étudiants et la société pour la reconversion de l'université en entité qui fabrique du savoir marchandisable. Donc, puis, si on veut vraiment approfondir le sujet, ben, on remonte jusqu'au fondement idéologique de cette transformation-là, et on se rend compte que, bon, je veux pas tomber dans les clichés, mais c'est encore une fois le grand méchant néolibéralisme qui est à la base de tout ça. Hein.
Tout à fait.
J'aime même pas utiliser ce terme-là parce que je trouve qu'il est utilisé lui aussi à
tort
tout
vent
pour condamner toutes sortes de choses, mais bon. Le néolibéralisme, dans ce cas-ci, supporte un désengagement de l'État par rapport à l'éducation, une désolidarisation de la société. C'est-à-dire que, bon, le citoyen devient un utilisateur payant ou un client. Hein. Si lui n'a pas à aller à l'université, il ne paye pas. Et, bon, mais c'est une pente qui est glissante parce que, bon... Moi, je n'ai pas de voiture. Est-ce que toutes les autoroutes devraient être à payage? Est-ce que chacun devrait payer exactement pour ce qu'il consomme? Qu'est-ce qu'on fait si... Bon,
la garderie,
par exemple,
les écoles, ouais, j'ai pas d'enfants, je paye pas pour les écoles.
Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, vous devez aller en prison? Qui est-ce qui va payer? Vous allez payer vous-même?
Il y en a qui le disent, d'ailleurs.
En tout cas, moi, je ne vais pas me lancer là-dedans, là, parce que ça serait compliqué. Donc, l'augmentation des frais de scolarité, finalement, ceux à qui ça va profiter le plus, ce sont principalement les banques.
Eh ben oui, c'est ce que j'allais dire. Par ailleurs, les banques, par l'endettement des étudiants.
Exactement. Bon, d'ailleurs, à ce niveau-là, il faudrait peut-être expliquer le fonctionnement du système de prêts et bourses qui, finalement... pardon. Le système de prêts et bourses au Québec, la manière dont ça fonctionne, c'est que l'étudiant qui contracte un prêt auprès d'une institution bancaire, il est endossé par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec, lui, va payer les intérêts. C'est généralement autour de 5 et 7%, ce qui est assez bas si on compare avec beaucoup d'autres prêts, mais le gouvernement n'en demeure pas moins que le gouvernement du Québec va payer les intérêts de la dette de l'étudiant tout au long de ses études. Et il les paie à qui, ces intérêts-là? Il les paie à la banque. Donc, le gouvernement lui-même, en augmentant les frais de scolarité et en augmentant l'endettement étudiant, augmente la charge qu'il doit payer. Donc, même l'augmentation des frais a un coût que le gouvernement devra défrayer.
Et qui est payé par le contribuable.
Et qui est payé par le contribuable également. Donc, Donc, c'est, je veux dire, c'est pas une solution
Non.
crédible.
Non. Ben, c'est très crédible pour les institutions bancaires, mais pas tellement pour la société.
Non, exactement. Donc, finalement, ce qui est le constat général de tout cet ouvrage, c'est que le fondement de ce processus-là, c'est on subventionne les riches en faisant payer ceux qui n'ont pas d'argent, ce qui équivaut finalement à vendre de l'endettement. C'est très lucratif pour les banques, encore une fois, parce que, bon, elles sont dans un contexte sans risque où l'étudiant est endossé par le gouvernement qui ne peut pas faire faillite. Donc, c'est un
Ouais.
investissement qui est garanti pour la banque.
C'est le bonheur total.
Exactement. Donc, c'est ça. Puis, il y a toutes sortes d'intervenants là, qui font des commentaires à la fin du livre Université Inc.,
OK.
dont M. Victor Lévy-Beaulieu ou
Oui.
M. Actouf, qui est également est très, très. Il apporte des chiffres, hein, finalement, pour démontrer que il y a des fonds qui peuvent être allés chercher à plein d'autres endroits que dans les poches de ceux qui veulent s'instruire, comme par exemple, si on pense seulement au crédit d'impôt qu'on octroie
Oui.
aux compagnies qui sont rentables, comme par exemple les grandes. Je pense qu'il y a ArcelorMittal qui exploite les minéraux, qui s'en va, hein, littéralement avec nos richesses et puis
Oui,
qui nous laisse.
littéralement. Ça, c'est un autre sujet, par contre, mais
Ouais.
effectivement, je suis
Et
tout à fait
puis,
d'accord.
juste en crédit d'impôt, il y a 5 milliards de dollars qui
Oui.
sont encore disponibles. Mais bon, on
On
n'embarquera
n'en
pas
oui, on
là-dedans.
embarquera pas là-dedans, c'est un autre sujet.
Voilà.
Écoute, merci beaucoup, Péa, de nous avoir fait le tour de la question comme ça sur donc le fonctionnement de la transition, dans le fond, vers l'université du savoir, vers
Ouais, exactement.
l'université économique. Alors, c'était Université Inc.,
Ouais,
Luxe
exact.
Éditeur 2011, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. On va faire une petite pause. On va écouter une chanson qui a été composée récemment et spécifiquement pour les étudiants en grève. Ça a été écrit par quelqu'un qui est davantage connu pour ses traits d'humour scatologiques, je dirais, sur le web anglophone. C'est un Montréalais. Il s'agit de John Lajoie, qui a décidé de rendre hommage aux étudiants en grève dans une chanson intitulée tout simplement Song for the Students.
Ceci est une chanson pour montrer ma solidarité avec les étudiants au Québec qui sont en grève présentement. This is not very funny. I apologize in advance. My next song will have farts and penises in it, I promise. You try to make me stay down upon my knees, tell me that I'm wrong, and right is just a dream. Someone has to pay, oh, oh, oh. The American way, I should just go home. You say I don't make sense, I don't know what I need, and what I need is to lose democracy. Someone has to pay. Oh, oh, oh. You are not to blame. I should just go home. But I do not believe you anymore. You've been lying to me for way too long. You exist for me, not the other way around. We are not your children, you cannot tell us to stay inside, we won't ever go. You can run, but you can't hide from us all. You shove 78 down my throat, and you think I will not cough and spit it in your face. We are not afraid, no, oh. We will not behave, nor will we go home. I do not believe you anymore. You've been lying to me for way too long. You exist for me, not the other way around. We are not your children, you can
cannot tell us to stay inside. We won't ever go. You can run, but you can't hide from us all.
Alors voilà, c'était « Song for the Students » de John Lajoie. Donc, après avoir fait le point sur la hausse des frais de scolarité et pourquoi donc on fait face à cette hausse de frais de scolarité, on va parler avec deux étudiants, Benjamin et Samuel. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce sont deux étudiants donc de Québec qui font partie du mouvement commencé au mois de mars, et on va essayer de faire un petit peu une historique du mouvement de mobilisation à Québec. oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous venez d'entendre David qui dit c'est des enfants rois. C'est effectivement la réputation qu'on essaie de donner aux étudiants. Donc, Samuel, Benjamin, comment ça a commencé tout ça à Québec?
Ben, nous, tout d'abord, on est là plus comme participants que organisateurs d'événements. Là.
OK.
Puis à Québec, c'est sûr qu'il y a eu le vote le 13 février, un premier vote de grève à l'Université Laval qui a été suivi par un autre vote de grève à l'UQAM.
OK.
Puis tranquillement, c'est ça, il y a eu des votes, puis les gens ont commencé à se mobiliser. À Québec, je pense pas qu'il y ait eu de manifestation avant celle le 1er mars.
C'était pas le 22 mars?
Il y a eu une manifestation à Québec, peut-être une quinzaine de mille de personnes.
OK.
Qui avait été un peu intéressant parce que t'es surprise de voir, il y a eu une manifestation le 1er mars. Mais qu'il y a vraiment eu beaucoup d'événements à Montréal, puis même on était enterrés par tout ce qui se passait à Montréal. Il y a des manifs chaque jour, beaucoup d'événements, manifestations et.
C'est au Québec parce que les médias ont couvert à peu près uniquement ce qui s'est tout récemment. Je pense que c'est à partir de la loi 78 qu'on s'est mis à s'intéresser à ce qui se passait à Québec.
Mais ça, effectivement, à Québec, la couverture médiatique a été moins importante. Il y a eu moins de mobilisation étudiante.
Aussi.
Si on pense au cégep, il n'y en a aucun qui sont rentrés en grève. Le cégep de Limoilou a refusé la grève à 60 %, le cégep Garneau à 68 %, puis le cégep de Sainte-Foy à 71 %. Donc, il n'y a aucun des cégeps à Québec qui sont rentrés en grève.
Il n'y a aucun cégep qui est en grève.
À l'Université Laval non plus, la mobilisation n'a pas été très, très élevée. Là, on parle d'environ 3 000 étudiants pré-gradués. Donc, c'est à peu près un dixième de la population de l'Université Laval. Il y a le vote de grève des étudiants gradués qui est venu un peu changer la donne, puisqu'on parle là de 11 000 étudiants.
Oh.
Donc, on parle, c'est ça, ça passe le chiffre de 3 000 à 14 000 étudiants à l'Université Laval. Mais c'est ça, sans les cégeps, la mobilisation étudiante a été moins importante à Québec. Malgré cela, il y a eu quand même, comme le mentionnait Samuel, il y a eu quand même plusieurs événements qui ont commencé avec le 1er mars, donc une manifestation organisée par la classe entre 10 et 15 000 personnes.
À Québec?
Oui, à Québec.
Il y a eu entre 10 et 15 000 personnes à Québec.
Oui, le 1er mars. Puis il y a eu même une petite altercation devant l'Assemblée nationale avec les policiers. Il y a eu quelques gaz lacrymogènes qui ont été lancés. Ouais,
ça, je m'en souviens. Ça, je l'ai vu.
Ça fait déjà longtemps. Hein,
c'est un conflit
qui dure pratiquement 4 mois. Donc,
ça a été la première grève vraiment à Québec le 1er mars.
La première manifestation.
OK.
Mais après ça, on parle de d'autres types de manifestations, mais un peu plus moins populeuses.
Médiatisées, moins de gens qui participaient. Mais quand même des trucs intéressants, là, comme il y a eu une manif devant les bureaux de Choix FM où étudiants étaient portés des muffins et des fleurs. Puis les funérailles, là on est rendu le 19 mars, les funérailles nationales de l'accessibilité aux études supérieures, un cortège funèbre qui avait déambulé dans la ville, puis il avait été enterré l'éducation.
Ça, il y a eu beaucoup de créativité quand même à Montréal, on a entendu des manifestations nues. Les manifestations du 1er avril qui étaient très, très drôles. Donc, une manifestation...
Il y a eu des trucs dans le métro.
De la droite, des trucs dans le métro. Donc, un mouvement quand même qui a eu beaucoup de créativité. Mais il y a eu cette créativité-là aussi à Québec. Donc, moi, j'ai participé à
les étudiants d'architecture à Québec qui faisaient des choses régulièrement aussi.
Oui, aussi.
Sur Honoré, Dufresne-Montmorency.
Oui.
Oui, qui étaient là. Je pense qu'ils ont passé un peu plus qu'une semaine là, à chaque jour. Ils étaient présents avec leur chapeau.
Leur cube rouge
sur la
tête. Sur le Boulevard Laurier aussi, je pense.
Oui, il y a eu des lectures des périodes d'études devant l'Assemblée nationale par les étudiants en littérature.
Il y a eu également une occupation à l'Assemblée nationale. Il y a eu 4-5 tentes pendant 3 jours, je crois. Là. Donc, ça n'a pas. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de tentes.
Ça, c'était fin mars?
Oui,
ça fait pas si longtemps.
Les tentes devant la... Je
C'était au début des manifs, manifs de soir, c'est fin avril.
Okay.
Ah oui. Okay. Ouais. Ah, tiens, tu me parles des manifs de soir. Quand ça a commencé, ça, les manifs de soir?
La première, si je ne me trompe pas, c'est le 27 avril.
OK.
Il y avait eu une manif l'après-midi vers 14h. Il y avait eu une manif à 16h30. Puis il y avait une manif le soir. Puis là, c'était comme un. On se disait qu'est-ce qui se passe à Québec. Ça fait presque un mois. Parce qu'il y a une période où il y avait beaucoup. Il y avait des manifs, des trucs comme ça. Mais il y a eu une grande période où il se passait à peu près plus rien. Puis là, tout d'un coup, les manifs, à partir du 27 avril, il y a des trucs à chaque soir.
Puis ça a été quoi le déclencheur des manifs? Qu'est-ce qui
C'est quelques étudiants de l'Université Laval qui se sont mobilisés là, pour. Parce qu'à Montréal, ça faisait à peu près 5 jours qu'il y avait les manifs nocturnes qui étaient déjà en branle. Et là, probablement qu'il y avait une certaine tension à Québec là, où les gens voulaient se mobiliser, mais qu'il se passait peu de choses.
Ouais.
Donc, hormis certaines actions ponctuelles des associations étudiantes. Et là, il y a eu le commencement des manifs nocturnes et qui durent encore aujourd'hui. Alors, ça, on parle de quand même 35 manifestations nocturnes, là, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Là. Ça fait. C'est pour Québec, puis Montréal aussi. Ils sont rendus pratiquement à 40 à Montréal. Donc, c'est une mobilisation quand même assez importante.
Oui.
Là, puis, on voit la motivation des gens là, qui a été assez importante. À Québec aussi, malgré le fait qu'il y a eu moins de cégep en grève, c'est-à-dire zéro. Puis,
Et quand vous avez senti que les citoyens de Québec se sont mis à participer aux manifestations, parce qu'au début, c'était vraiment uniquement des étudiants.
Que des étudiants. Ben probablement il y a pas si longtemps là, je dirais peut-être c'est probablement la loi 78
qui a fait sortir
les familles les personnes plus âgées tout le monde là, les même des étudiants qui sortaient pas que là maintenant ils sortaient ou des travailleurs de notre âge puis
ça, depuis puis il y a eu le mouvement des casseroles aussi, donc quelque chose de très unificateur avec le mouvement des casseroles. Moi, j'ai entendu casseroles dans les Limoilou, dans Saint-Jean-Baptiste, dans Montcalm, et ça fait en sorte que aussi la représentation des médias est obligée de changer, parce que là, c'est plus des enfants rois de 20 ans qu'on peut vraiment mépriser, cracher dessus à longueur de journée avec des chroniques de droite. Mais là, ça devient un mouvement citoyen, donc puis la loi 78 n'attaque pas seulement les étudiants, mais attaque le droit même de manifester. Donc, ça a vraiment rassemblé beaucoup plus de citoyens. Et depuis ce temps-là, aux manifs nocturnes, il y a beaucoup plus de citoyens de tous âges et de tous horizons qui viennent manifester avec nous. Puis, faudrait également parler des arrestations quand même qu'il y a eu à Québec. Là.
Tout au long des... à peu près depuis le début, là, c'est-à-dire depuis le 12 mars où il y avait eu une première utilisation des constats d'infraction comme moyen de freiner ou de réprimer une manifestation, carrément stopper la manifestation. Là, il y avait eu un blocage au Félix-Antoine Savard à l'Université Laval.
Ça, c'est au début, là.
Oui, là, on est le 12 mars, puis c'est 3 constats d'infraction qui sont remis, des entraves au travail des policiers. C'était des étudiants qui étaient sur le terrain de l'université, qui, trois derniers étudiants qui ne voulaient pas se dégager le pavé. L'accès au pavillon. Puis les policiers leur ont remis 3 constats d'infraction pour entrave au travail des policiers. Puis ensuite...
Ça, c'est les premières contraventions qui ont été données à Québec de mémoire, là.
Okay. Puis, un petit peu plus loin, même chose, pendant un blocage, une entrave au travail des policiers. Ça, c'est quand même quelques étudiants, là, 3, puis un le dernier. Puis ensuite, la première arrestation, il y a eu plusieurs personnes. C'est le 28 mars où il y a 14 étudiants qui, suite à le blocage de l'édifice Presse, il y avait une marche spontanée qui avait démarré puis qui s'était ramassée dans Limoilou. Mais il y avait peut-être un petit peu plus que 80 étudiants qui participaient, puis presque l'équivalent policier. Fait qu'ils ont toléré un petit bout.
Presque l'équivalent policier?
Ouais, une trentaine de policiers. Là, qui.
On en parlait tout à l'heure hors d'onde de ça, le comportement des policiers à Québec diffère du comportement policier à Montréal. À Montréal, on a vu beaucoup, beaucoup de brutalité, là, vraiment, là, de manière régulière. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu à Québec, mais disons que c'est peut-être moins...
Mais aussi, à Montréal, ce qui déclenche l'intervention des policiers, c'est des actes de vandalisme. vandalisme ou des actes de violence qui sont faits à l'intérieur des manifestations, casser une vitrine, des feux d'artifice, des trucs comme ça. Mais à Québec, de mémoire, puis pour avoir participé à beaucoup de manifestations, j'ai jamais vu d'actes de vandalisme. Il y a eu des quelques petits feux d'artifice, là.
Mais dans le fond, tu dirais que les manifestants à Québec sont plus pacifistes qu'à Montréal?
Oui, sont beaucoup, beaucoup plus tranquilles, là.
Par contre, les policiers de Québec semblent beaucoup moins tolérants que ceux de Montréal, tant qu'à l'égalité ou l'illégalité, toute l'histoire de l'itinéraire. On sait qu'à Montréal, ils ne donnent jamais l'itinéraire. C'est immédiatement déclaré illégal, mais ils ne font rien.
Ouais, mais alors qu'ici... ils n'ont pas le choix à Montréal, parce qu'à Montréal, on parle de 3 000-4 000 personnes à chaque soir.
Des fois,
donc,
5 000,
de ne pas donner l'itinéraire, ils ne peuvent rien faire, en fait. Oui. Ce qu'ils font à Montréal, c'est qu'ils chargent dans la foule. Donc, c'est beaucoup plus violent. Ils chargent dans la foule, ils dispersent la foule.
Oui.
Et après ça, ils vont happer à gauche, à droite,
par petits groupes de personnes.
Et ils vont réprimer d'une manière assez violente. À Québec, c'est un peu différent. En fait, à Québec, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont procédé à des arrestations massives. Là. On a pensé à celle devant le cégep de Limoilou. Donc, on parle d'environ 50 arrestations. Il y a eu 80 arrestations le jour de la manifestation féministe. Il y a eu... devant le sacrilège, il y a eu une trentaine d'arrestations
aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le quartier, on en a entendu beaucoup parler parce que c'était juste à l'entrée d'un bar très, très populaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces arrestations-là?
Ben, en fait, c'était absolument ridicule, là, au sens où on revenait d'une manifestation nocturne, puis on était un petit groupe. Donc, c'était après la loi 78, puis on était chacun de...
Deux petits groupes,
chacun sur les trottoirs. D'un côté était la file indienne et de l'autre côté également. Puis on chantait des slogans. Et en fait, c'était très festif et c'était très drôle. On faisait beaucoup de blagues. Et là, tout d'un coup, les policiers se sont énervés. Puis ils ont décidé d'encercler le groupe qui était l'autre côté de la rue. Puis ils l'ont encerclé devant le sacrilège.
Alors, c'est quand même curieux.
Puis c'est ça, donc une trentaine d'arrestations. Puis à chaque fois qu'il y a ces arrestations massives-là, en fait, ils utilisent le code 500.1 qui stipule qu'on a participé à une action concertée destinée à entraver la voie publique. Mais c'est vraiment, selon moi, un prétexte.
Ça relève du code de la sécurité routière.
C'est ça, exactement. Et c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire de la répression policière. Alors, évidemment, on ne parle pas d'une répression qui est comme en Syrie, par exemple. Là, c'est vraiment les militaires, des tanks, des mitraillettes et des bombes. Mais c'est quand même une répression. Donc, plus douce, entre parenthèses. Qui utilise un prétexte d'obstruction de la voie publique. Et la plupart du temps, en réalité, la voie publique n'est pas obstruée, en fait, pas plus que 5 minutes. Et le plus contradictoire dans tout ça, c'est que les arrestations prennent plusieurs heures et c'est les policiers eux-mêmes qui vont obstruer la voie publique. Pendant 5 heures, ils vont bloquer la route.
Pour pouvoir ramasser tout le monde.
Et donner une amende quand même de 494 $, qui est une répression économique, parce que, c'est évidemment, rembourser, là, il va probablement avoir aucun de ces infractions-là qui seront payées.
Bien, on le souhaite, mais en fait, on ne sait pas trop comment va se...
Oui, puis c'est ça, c'est d'être arrêté aussi pendant plusieurs heures, de se faire passer les menottes. Il y a quelque chose de très humiliant là-dedans.
Oui. Puis toi, tu as été arrêté?
Oui, moi puis Samuel, on a été arrêté lors d'une manifestation, et c'était absolument ridicule. On était dans la rue comme une manifestation normale, et du coup, ils nous ont bloqué la route. Et une minute plus tard, on s'est retourné, on était encerclés. Ils ont commencé à mettre des rubans tout autour de nous. Puis finalement, moi, on m'a passé les menottes. Et moi, il y a le 500 $, mais moi, je parle de l'humiliation de ton intégrité physique, en fait, d'être dans la rue, d'être un citoyen libre qui manifeste pacifiquement ses opinions politiques, et là, de se faire entourer et arrêter. Et ça dure pendant des heures. On se fait passer les menottes. On m'a mis dans un fourgon par des hommes de Cro-Magnon. Là, je trouve ça absolument insultant puis absolument humiliant. Donc, c'est vraiment quelque chose que je déplore. Puis à Québec, on parle d'environ 420 arrestations. Le record, ça a été 176 sur
la rue Saint-Jean. Oui, c'est ça, je voulais qu'on en parle de celle-là quand même.
176
fois, là. C'est vraiment massif.
Et là, ça dure plusieurs heures. Et après ça, on met les gens dans des autobus et on va les mettre à l'autre bout de la ville. Alors, les gens ils peuvent pas aller aux toilettes, peuvent pas manger, peuvent rien faire. Et c'est vraiment dégradant. Et après ça, ils vont disperser les gens
aux quatre coins de la ville.
Et t'es obligé de revenir à 4 heures du matin chez
grâce
toi.
Grâce à la collaboration du réseau de transport.
C'est vraiment C'est un peu dégradant, c'est un peu dommage de...
Durant les arrestations auxquelles vous avez participé, est-ce qu'il y avait des citoyens qui n'étaient pas des étudiants qui ont été arrêtés avec vous?
Oh, absolument. Absolument, je crois, durant notre arrestation, il y avait même une dame à peu près d'une cinquantaine d'années qui était aveugle. Hein? Donc, elle était avec son mari, avec sa canne, hein? Puis elle s'est faite encercler, puis elle s'est faite arrêter aussi.
Ben.
Donc, puis aussi, on n'a aucune manière de raisonner les policiers. Là, quand on leur parle, on a l'impression de parler à une roche. Donc, non, c'est vrai. C'est vrai, mais eux autres, évidemment, le rôle des policiers est essentiel, là, au sens où ils assurent l'ordre et la sécurité dans une ville. Donc, un policier, c'est lui qui intervient quand il y a un accident, c'est lui qui intervient quand il y a des actions violentes. Mais lorsque le corps policier est utilisé à des fins politiques pour réprimer des manifestations pacifiques, c'est vraiment grave.
Et donc, vous êtes là depuis le début, vous êtes étudiant, vous avez participé à la première mobilisation étudiante, donc qui a commencé sur le campus, ensuite les manifestations en ville, la mobilisation citoyenne. On sait qu'il n'y aura pas d'élection, en tout cas pas prochainement. On sait que les sessions sont suspendues. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on continue?
Moi, personnellement, je prends une pause, là, mais oui, on continue.
Moi, je disais à la blague, j'ai sorti une blague hier, c'était parce que c'est une manif par soir jusqu'à la victoire.
Oui.
Et là, on dirait on pourrait changer ça pour une manif par soir jusqu'au désespoir. Mais c'est un peu à la blague, là. Parce que effectivement, depuis la dernière rupture des négociations,
évidemment, c'est
rupture,
un peu déprimant. Hein.
C'est un peu déprimant. Puis là, la saison estivale change un peu la dynamique, parce que là, bon, les sessions sont suspendues, il y a beaucoup des étudiants qui retournent en région, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent justement pour payer la hausse des frais de scolarité. Donc ça change un peu la dynamique. Malgré tout, il y a quand même la mobilisation qui continue.
Il y a une
Québec.
Mobilisation citoyenne, je pense, qui semble avoir pris un petit peu la relève des étudiants. On va voir comment ça va se dérouler dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais effectivement, il me semble qu'il y a de plus en plus de citoyens, peut-être moins d'étudiants, fait que tout ça finit par se balancer.
Oui, parce que de mouvement étudiant, il y a eu comme une transition vers un mouvement social, finalement. Ouais. Et là, les gens... c'est pas uniquement une hausse des frais de scolarité qui conteste non plus une vision de l'université dont on a parlé tout à l'heure avec l'Université Ing, mais c'est également toutes les actions finalement gouvernementales, si on pense au plan Nord, la vente des permis d'exploitation de l'île Anticosti, toute la corruption dans la construction, l'évasion fiscale, c'est une espèce de ras-le-bol généralisé que les manifestants vont exprimer depuis le début. Là, on a pensé au 22 avril aussi, qui était très lié avec le mouvement étudiant par rapport aux biens communs puis par rapport aux ressources naturelles. Donc, c'est intéressant de voir ce mouvement-là évoluer avec le temps.
Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup, Benjamin. On va se souhaiter un bel été.
Oui, bien, en fait, ça, juste simplement pour conclure, en fait, peut-être qu'effectivement, les médias ont moins couvert la ville de Québec, mais il y a eu quand même une mobilisation, malgré le fait que les cégeps ne sont pas rentrés en grève. Il y a eu quand même beaucoup d'actions à Québec, les manifestations nocturnes, et ça continue. Et le 22 juin, donc un peu ensuite du 22 mars, 22 avril, 22 mai, il va y avoir le 22 juin où que, là, il y a des manifestations qui sont appelées à Montréal et une manifestation qui est appelée à Québec devant l'Assemblée nationale, juste avant la Saint-Jean-Baptiste.
Eh bien, j'y serai. J'espère qu'on se verra là.
Ben oui.
Et merci beaucoup.
Merci. On va faire une petite pause musicale. On va écouter une chanson qu'on a beaucoup entendue sur le web en rapport avec les mouvements étudiants aussi. Je pense que c'est un groupe français qui s'appelle MAP et ça s'appelle « Un air de révolution ».
qui mettez la main dans la caisse pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité, toujours au-dessus des lois, intouchables comme des rois, méprisés les sans-droits. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal. Vous donneurs de leçons, même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral. Vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, comme un problème ou comme un enjeu politique. Vous la crème des crèmes politico-affairistes. Vous et vos visions d'un monde ultra-capitaliste. Vous, exploitants de la misère. Vous qui méprisez nos chansons de la colère. Préparez-vous à mordre la poussière. Attendez-vous à vivre l'enfer, exploité, détestable prolétaire, dominé, démuni, sont sur le pied de guerre. Écoutez les mélodies de l'insurrection, écoutez bien. La masse est en ébullition, écoutez cet air qui me donne envie de monter le son. Il y a dans la rue comme un air.
Sens-tu comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air? Par-delà les nations, la révolte est planétaire. Ça ne sent pas la rose, non, ça sent plutôt le soufre. De ces moments de l'histoire où la roue tourne jusqu'à t'en couper le souffle. Vois-tu un à un tous ces peuples opprimés qui se soulèvent? Ce n'est peut-être qu'un début, mais ne pense pas que tout cela ne soit qu'un rêve. Quoi qu'ils en disent, ça ne sent pas bon pour nos rois et pour nos reines. Ça ne sent pas bon pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui tenaient les rênes. Sens-tu comme un air de déjà-vu, car l'histoire sans cesse se répète. Ceux qui prospéraient hier d'une manière ou d'une autre, demain ils laisseront leur tête. Dirigeants malfaisants, barons de la finance, gros bonnets de la bourse. Industriels exploitant la misère humaine comme dans un champ de course. Peut-être qu'après la victoire, ceux qui prendront le pouvoir seront les mêmes. Peut-être qu'on ne pourra jamais rien face à la folie humaine. Mais puisque nous sommes là, puisqu'on voit, puisqu'on vit sur cette terre, marchons la tête haute, soyons combattants, soyons révolutionnaires. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire.
Alors, c'était un air de révolution du groupe MAP. Je me suis livrée à un petit exercice la semaine dernière. J'ai tenté de dresser la liste des différentes questions qui ont été soulevées par ce conflit entre les associations étudiantes et le gouvernement. Et c'est assez étonnant, ça grimpe assez rapidement, hein? On peut arriver à une vingtaine de sujets sans trop se forcer. Alors, si vous voulez bien, je vais rapidement faire le tour de quelques-unes qui m'ont apparu les plus importantes. Alors, d'abord, bien sûr, il y a le rôle des universités. On en a parlé beaucoup tout à l'heure au début de l'émission avec PA. est-ce qu'on veut former des travailleurs ou des citoyens? Et quelles seront les conséquences d'une privatisation des universités ou en tout cas de la marchandisation du savoir? Est-ce que ça signifie la fin de ce que certains appellent des sciences molles? Bon, disons peut-être pas la fin, mais en tout cas, on va certainement parler d'un accès plus difficile à la philosophie, à l'histoire, à la sociologie, à la littérature, à tous les arts, et même à certaines sciences pures comme la mathématique. Parce que finalement, qui aura les moyens de s'endetter de 30 000 $ pour obtenir un diplôme qui ne débouchera pas sur un emploi rémunérateur? Et puis, qui doit payer pour l'éducation? L'entreprise qui va bénéficier de la formation donnée aux travailleurs? Ou l'individu qui aura investi dans sa formation pour l'obtention d'un travail bien rémunéré? Et si la formation choisie ne vise pas a priori un travail, mais un développement personnel, est-ce que ça se peut? Quelle est la valeur de la connaissance? On en revient toujours finalement au questionnement économique. Hein? La croissance économique, l'objectif ultime de toutes les économies. Tous les jours, on tente de nous effrayer dans les bulletins de nouvelles en nous parlant de récession, de décroissance, comme si c'était la fin du monde. Mais la croissance est-elle la solution à tous les maux? La croissance peut-elle être infinie dans un monde fini? Ici, il y a la question environnementale qui se pose, ainsi que son corollaire, le consumérisme. Peut-on continuer à augmenter notre consommation pour satisfaire le besoin de croissance économique sans en venir à épuiser les ressources de la planète? Et puis, avouons-le, après 30 ans de mesures néolibérales, force est de constater que le monde ne s'est pas amélioré, que les inéquités ont augmenté, que l'état de la planète s'est sérieusement détérioré et que la taille de l'État n'a pas diminué. Puis d'ailleurs, en passant, ce modèle de vie basé sur la consommation, qui a été mis en place dans les années 50, est-ce que ça nous rend vraiment heureux? La maison de banlieue, le voisin gonflable, le sentiment de sécurité et de puissance quand on conduit son char dans le trafic, avoir une grosse TV pour avoir du divertissement, plein de divertissement, plus de divertissement. On a tellement de divertissement que même l'information est devenue du divertissement. D'où la prochaine question soulevée par cette crise étudiante, la couverture médiatique faite par les médias traditionnels. Les jeunes ont été très, très critiques envers la manière dont les médias traditionnels ont fait la couverture du conflit. À un moment donné, ça a même dépassé la critique. Il y a eu de la frustration, de l'agressivité, des appels au boycott. Peut-être que c'était un peu exagéré. Mais, entre vous et moi, là, ça nous est tous arrivé de trouver que, tu sais, franchement, là, en regardant la télé, en lisant un article dans le journal, en écoutant un animateur de radio le matin, et des fois, là, il y a comme un problème de... Je sais pas, c'est même plus une question d'objectivité, là, c'est comme une question de... d'essence. Parce que des opinions puis du divertissement, ça remplit bien du temps d'antenne, mais est-ce que ça informe ou si ça désinforme? En parlant des médias, il faut souligner le rôle important des médias sociaux dans la propagation des idées et dans la mobilisation des jeunes. On en a encore probablement pour bien des années à calculer l'impact des nouveaux moyens de communication sur nos vies et notre quotidien. Mais il semble évident que cette crise n'aurait pas eu la même ampleur sans Facebook et Twitter. Et imaginez, sans argent, sans moyens de publicité, on a réussi à mobiliser des centaines de milliers de personnes pour venir marcher dans les rues. Le mouvement des casseroles est né en une journée et s'est propagé dans tout le Québec en 3 jours. Un autre impact des médias sociaux, ça a été la possibilité de vivre les manifestations « live » en direct, de l'intérieur, grâce aux médias étudiants. C'est certainement la première fois dans l'histoire du Québec qu'on peut assister ainsi au choc entre un mouvement de contestation et les forces policières in visu. Et, oh, Surprise! Nos policiers sont pas plus fins que les autres. Des images de brutalité policière ont envahi le web à un tel point qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, là, pour un Suisse ou un Danois, là, le Québec puis l'Égypte, c'est un petit peu la même affaire. Hein? D'où la question. Quand et jusqu'où les forces policières doivent et peuvent intervenir lors de l'expression d'un désaccord citoyen? Est-ce qu'on a le droit de manifester n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quoi? L'ordre a-t-elle préséance sur la liberté d'expression? Le droit de l'étudiant qui veut avoir accès à son cours passe-t-il avant celui qui a voté en assemblée pour une grève générale? Les étudiants n'étant pas des travailleurs, ont-ils le droit de faire la grève? Le gouvernement Charest croit que non. La démocratie ne se base-t-elle pas sur le droit d'association? Bien, finalement, là, c'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est le droit de déposer un petit carton avec un X dans une urne une fois aux 4 ans, puis c'est tout? Bref, soudain, ce qui semblait parfaitement clair hier ne l'est plus tout à fait aujourd'hui. Moi, il m'apparaît maintenant que ce banal conflit étudiant a déterré bien des malaises qui couvaient depuis longtemps et qui sont partagés par la plupart des sociétés occidentales. Alors, avant de passer à la pause musicale, je vous lance en vrac quelques autres questionnements. Une société juste doit-elle tenir compte de l'équité intergénérationnelle? Les jeunes, actuels et à venir, devront payer les soins de santé et les retraites d'une société vieillissante. Ne serait-il pas juste de payer leurs études? Un gouvernement qui sort une loi spéciale à chaque fois qu'il en a besoin, est-ce que c'est un gouvernement démocratique? Un clin d'œil pour les manifestants qui ont reçu des contraventions en vertu de la loi sur la sécurité routière. Sérieux, la rue, là, elle appartient à qui? Au peuple ou aux automobiles? Pour finir, la désobéissance civile, c'est quoi? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est dangereux? Et pour qui est-ce dangereux? David va nous entretenir de cela tout de suite après la pause musicale. On va écouter « Exit Music for a Film » de Radiohead.
From your sleep, we're drying up your tears. Today we escape, we escape. Past and get dressed before your father hears us, before oh hell breaks loose. Sing as a sound to keep us warm. There's such a chill, such a chill.
Alors, c'était Exit Music de Radiohead. Et on est de retour avec David. Bonsoir, David.
Bonsoir, Catherine. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi-même.
Merci, merci, oui.
Alors, tu vas nous parler d'un livre qui a été écrit quand même il y a très longtemps, qui a été écrit en 1849.
En fait, en 48.
En 48.
Je peux pas te corriger, mais...
Non, mais c'est très bien. C'est beau, la précision.
Oui.
Et il s'agit de la désobéissance civile. C'est un grand classique des humanités pour les gens qui savent encore ce que c'est à l'époque où on avait des idées. C'est écrit par David Thoreau. Et ça a été écrit dans quelles circonstances?
Bien, en fait, ça a été écrit d'abord lors d'une conférence. En fait, ça n'a pas été écrit. Ça a été lu dans une... Blah, je dis n'importe quoi. Ça a été, ouais, d'abord une conférence qui s'appelait « La relation entre l'individu et l'État ». Et c'est quand même un peu plus tard que ça a fini par devenir le devoir de désobéissance civile, connu aujourd'hui sous le nom de désobéissance civile. Ça s'est produit à l'époque où... les États-Unis, en fait, qui étaient évidemment encore esclavagistes à l'époque, quand les États-Unis ont décidé d'émanciper un peu leur territoire au profit, évidemment, aux grandes dames de leurs voisins, le Mexique, le Nouveau-Mexique, ainsi que la Californie. Et c'est lors d'une guerre d'expansion que Henri David Thoreau a décidé, lui, de cesser de contribuer à l'État, puisqu'il n'y croyait pas et ne voulait pas encourager l'invasion du Mexique, ainsi que l'esclavage. Alors, okay. C'est ça. C'est dans un contexte guerrier et d'esclavage. Oui.
Dans le fond, il était en désaccord avec les décisions de l'État.
Il était en désaccord avec les décisions de l'État. Oui. Et il disait que... Ben, en fait, c'est de là où vient la désobéissance civile. Il disait que un homme ne doit pas obéir dans les cas où sa conscience le turlupine. Et c'est ainsi qu'il a décidé, puisque sa contribution... il la faisait non pas en action, mais d'une manière un peu détournée, en payant ses impôts. Henri David Thoreau a décidé de cesser de payer ses impôts et par là même de cesser de financer fusils et soldats. Et c'est ça, de ne pas contribuer directement ou indirectement, comme il le dit lui-même, à la guerre.
Et est-ce qu'il y a eu des conséquences au fait qu'il a cessé de payer ses impôts?
Ben en fait, c'était, ben, en tout cas selon le texte, c'était son voisin qui était le percepteur d'impôts. Et le gouvernement, en fait, n'était représenté, Thoreau fait quelques bonnes blagues là-dessus, le représentant du gouvernement passer une fois chez vous, et c'était la seule manière, en fait, de s'approcher un peu du pouvoir, c'était de parler avec le percepteur d'impôts, puisque personne n'était invité à la table du gouvernement, du gouverneur de l'État du Massachusetts. Donc, c'est ça, c'était avec le percepteur d'impôts, et Henri-David Thoreau, après avoir essayé d'avoir une discussion illuminée avec le percepteur d'impôts, n'a pas réussi, a donc refusé de payer ses impôts, et comme conséquence, il a dû faire de la prison. Et malheureusement, il n'a fait de prison qu'une seule journée.
Une seule journée?
Une seule journée, parce qu'un un quidam a décidé de payer les impôts de Thoreau pour lui rendre service. Thoreau était en beau fusil de n'avoir passé qu'une nuit à la prison, alors qu'il disait que c'était finalement en prison qu'on était libre, et tous les gens de l'extérieur de la prison qui étaient, eux, prisonniers ou esclaves. Alors, une seule nuit, oui, en prison.
Et il a écrit donc ce texte avant ou après, ou enfin dans ce contexte précis-là?
Oui, ça a été écrit. Attendez que je me souvienne.
Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, dans son livre?
Ben, il dit qu'en fait, chaque homme, et c'est là l'important, en fait, c'est là tout le principe de la désobéissance civile, chaque homme doit obéir à sa conscience, à sa morale, avant d'obéir à un gouvernement ou à des lois qu'il qualifie d'iniques ou d'injustes, quoi que ce soit synonyme. Ouais, c'est ça. Donc, l'homme doit agir pour le mieux selon sa conscience. Et si sa conscience lui dit, eh ben, paye pas tes impôts, désobéis aux lois, eh ben, fais-le, et tu n'auras de compte à rendre qu'à Dieu. Parce que Henri-David Thoreau était croyant. Il s'était un peu basé, d'ailleurs, sur la vie de Jésus, qui est un des premiers désobéissants envers un système un peu inique.
Mais si je comprends bien, la désobéissance civile comprend aussi l'idée qu'il va falloir assumer les conséquences de la désobéissance. C'est-à-dire que les gens qui décident de faire la désobéissance civile, il faut qu'ils soient prêts à se faire emprisonner.
Évidemment. Et d'ailleurs, ben, en tout cas, pour les époque, je veux dire, on ne traite pas de la même manière un désobéissant civil. En tout cas, je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est, je ne suis encore jamais allé en prison, mais on ne traitait pas à l'époque de la même manière un violeur, par exemple, en série, ou un désobéissant qui avait une justesse d'âme, des principes, et etc. Alors, Thoreau a été bien traité, sa réputation qui l'avait précédé lui a fait des camarades de ses co-détenus, même des gardiens, alors il a été quand même bien traité. Et ouais, c'est ça. Alors,
est-ce que ça se faisait beaucoup, la désobéissance civile, à cette époque-là?
Non, en fait, Thoreau dit que, puis un peu pour reciter Hamlet, je vous la cite un peu à la va-vite, parce que ma mémoire étant ce qu'elle est. Aujourd'hui, pour trouver un homme honnête, il faut chercher parmi plus de 10 000. Thoreau reprend un peu des citations d'Hamlet, justement, dans son traité de la désobéissance civile, et dit que lui aussi, oui, beaucoup de gens s'opposent en principe, on attend que la majorité décide qu'il faut changer la loi, etc. Et il dit, Thoreau, un peu cyniquement, que quand la majorité décide, par exemple, d'abolir l'esclavage, c'est qu'il est déjà trop tard, que l'esclavage est en partie aboli et qu'il ne reste plus d'esclaves. Alors, il ne faut pas attendre la majorité. Il faut agir tout de suite selon ses principes. Et c'est ça.
Et c'est un Américain?
C'est un Américain. Un petit gars de Concord, au Massachusetts. Vous pardonnerez Non, peu importe. Massachusetts, je le prononce bien mal. En tout cas, ouais, donc un Américain, oui. Inspirateur, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, de Gandhi, de Tolstoï, qui se sont beaucoup inspirés de lui pour ensuite faire, par exemple, la désobéissance civile, la résistance passive, comme l'appelait Gandhi, envers le régime anglais.
Puis est-ce que c'est la même chose, la résistance passive et la désobéissance civile? C'est pas la même chose?
Ben, j'aurais tendance à dire que c'est la même chose. Probablement qu'au temps de Gandhi, il y avait un peu plus d'implications. On parle d'une armée étrangère qui envahit son pays, les coups de matraque allaient bon train à l'époque, même les mitraillettes allaient bon train à l'époque où Gandhi, lui, avait repris le principe. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la même chose. Peut-être un peu plus fort chez Gandhi, puisque les tenants et aboutissants de la résistance étaient souvent plus néfastes, voire mortels, mais quand même, ouais, c'est la même chose.
Le concept de désobéissance civile semble être tombé comme un petit peu en désuétude au 20e siècle, mais depuis, je dirais, 1999, depuis Seattle, on dirait que ça revient en force.
Ben en fait, puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Non seulement il est tombé en désuétude, ce terme de désobéissance civile, mais aujourd'hui, on nous matraque dans les journaux. Désobéissance civile, ce sont tous des anarchistes ou je sais pas quoi. En fait, le terme est devenu lui-même péjoratif, ouais. Alors que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est au contraire une grandeur d'âme, une force que l'individu consciencieux a pour lui, la seule force qui lui reste en réalité pour lutter contre quelque chose d'injuste, quelque chose d'oppresseur, et etc. Alors, c'est une action tout à fait noble. Aujourd'hui, on tente de nous faire croire que ça ne l'est pas et que c'est le lot de petits casseurs, d'anarchistes, de communistes, fouillez-moi, tout ce qu'on emploie aujourd'hui comme terminologie. En fait, il y a un détournement de langage hallucinant ces derniers jours, voire ces derniers mois, et c'est ça. Alors que je sais pas si on peut traiter Gandhi, Tolstoï, Henri David Thoreau et qui que j'oublie, même Martin Luther King, nommez-les ceux qui sont élevés contre la tyrannie. Est-ce qu'on peut dire que tous ces gens-là sont des connards ou ce sont des gens qui ont respecté leurs principes et qui pour ça en ont souffert?
Et comment tu vois, toi, la réactualisation de la désobéissance civile aujourd'hui?
Ben, en fait, comment je vois? Répète ta question.
Comment tu vois, comment on peut réactualiser ce concept-là de désobéissance civile dans le contexte actuel?
Ben, la grève en est un bel exemple. C'est une réactualisation. En fait, elle devrait être nettement plus élargie que ça, quoique on l'a vu, hein, c'est souvent le lot d'hommes seuls qui combattent contre la tyrannie. Aujourd'hui, on voit, on n'est même pas 1% de la population dans les rues à voter ou plutôt à manifester contre des lois iniques ou un gouvernement despotique. Ben c'est ça, le contester, y aller avec sa conscience, c'est comme ça. Faire selon ce qu'on croit, ce que nos tripes nous disent et pas seulement justement se conformer à la majorité ou etc. D'ailleurs, Thoreau fait une belle blague sur la démocratie. Il parle de la loi de la majorité, mais la majorité est souvent condamnable elle aussi.
Je crois que tu tiens le livre ouvert une page. Est-ce que tu voulais nous en lire un extrait?
Ben, j'aurais quelques petits extraits peut-être qui résumeraient nettement mieux ce que moi je dis. Laissons parler le maître. Alors, tiens, je vous en lis un petit passage comme ça. Il y a des lois injustes. Nous bornerons-nous, à les respecter? Continuerons-nous d'y obéir tout en essayant de les amender ou les transgresserons-nous tout de suite? En général, sous un régime comme le nôtre, on estime qu'il faut attendre d'avoir persuadé la majorité pour modifier ses lois. On considère la résistance comme un remède pire que le mal. Pourtant, si le remède est effectivement plus néfaste que le mal, c'est la faute du gouvernement. C'est lui qui le rend pire. Pourquoi n'est-il pas davantage capable d'envisager et d'organiser les réformes? Pourquoi ne chérit-il pas sa minorité de sages? Pourquoi crie-t-il et résiste-t-il avant qu'on le blesse? Pourquoi n'encourage-t-il pas les citoyens à rester sur le qui-vive pour déceler ses erreurs? Pourquoi ne les pousse-t-il pas à faire mieux que ce qu'il leur demande? Pourquoi toujours crucifie-t-il Jésus, excommunie-t-il Copernic et Luther, déclare-t-il Washington et Franklin rebelles? Alors ça, c'est, voyez-vous, un mini-exemple de l'actualité hallucinante et criarde. Ouais, j'ai envie, tiens, de vous en lire peut-être un autre petit bout, si le temps le permet.
Bien sûr, pourquoi pas?
Alors...
Lui, il parle de devoir de désobéissance.
Oui, c'est un devoir, en fait. C'est un devoir de conscience. Là. C'est pas seulement, quelque chose qu'on fait par plaisir ou etc. C'est un devoir de ne pas obéir quand notre conscience nous dit qu'il y a quelque chose qui a anguille sous roche. Et c'est le cas en ce moment. Attendez, je vais retrouver mon petit passage. Ici, ça s'est fait. Ici, alors. Ah oui, j'ai un autre petit truc assez drôle sur, en fait, les agents du gouvernement. Je vous lis un long passage, mais ça vous évitera peut-être de le lire. C'est une blague, lisez-le, La désobéissance civile, republié chez Tipo au mille et une nuits à 5,50 $, donc pas trop cher pour toutes les bourses, sauf celle des riches, puisque c'est pas cher, c'est sûrement pas bon. Non, mais je plaisante en fait. C'est un livre tout à fait accessible, vous pouvez même sans doute le trouver sur le net. Donc, tiens, je vous lis un relativement grand passage, mais il est pas plat, vous allez voir. Donc, ok. Après tout, si, une fois que le pouvoir est entre les mains du peuple, on permet à une majorité de gouverner, et cela pendant longtemps, ce n'est pas parce qu'elle a plus de chances de bien agir, ni parce que cela semble plus juste à la minorité, mais parce que, physiquement, elle est la plus forte. Le régime dans lequel la majorité décide toujours ne saurait être fondé sur la justice, ni même sur l'idée incomplète que les hommes ont de la justice. Ne peut-il exister de gouvernement dans lequel ce n'est pas la majorité qui, en pratique, détermine le bien et le mal, mais la conscience ? Dans lequel la majorité ne prend de décision que dans les cas auxquels s'applique la règle de l'utilité. Le citoyen doit-il jamais, même pour un instant, céder la plus infime parcelle de sa conscience au législateur? Pourquoi les consciences individuelles alors? Pardon. Selon moi, nous devons être hommes d'abord, des sujets ensuite. Il importe moins de cultiver le respect envers la loi que de le cultiver envers le bien. Ma seule obligation consiste à toujours faire ce qui me paraît juste. On dit avec raison qu'un groupe n'a pas de conscience, mais un groupe d'hommes intègres est un groupe doté d'une conscience. Jamais la loi n'a rendu les hommes un tantinet plus justes, mais les personnes bien intentionnées sont amenées, chaque jour, par un respect excessif envers la loi, à être des agents de l'injustice. En veut-on un exemple banal ? Voici une file de militaires, colonels, capitaines, caporals, simples soldats, artificiers et tout le bataillon, qui vont, par monts et par vaux, au combat, dans un ordre admirable. Pourtant, ils marchent contre leur volonté, que dis-je, contre leur bon sens et leur conscience, ce qui rend leur avance pénible et fait cogner les cœurs. Tous sont convaincus d'être engagés dans une odieuse affaire, car tous préfèrent la paix. Eh bien, que sont-ils ? Des hommes, vraiment ? Ou de petites poudrières et de petits forts ambulants à la solde de quelques chefs sans scrupules. Allez à l'arsenal maritime et observez un marine, cette sorte d'homme que le gouvernement des États-Unis peut fabriquer, cette espèce de créature en quoi il peut, par sa magie noire, transformer un homme. Et vous n'aurez devant vous qu'une ombre, un pâle reflet d'être humain, un cadavre paré et vivant, qui se tient debout, déjà, pourrait-on dire, inhumé, en grande pompe, sous les armes. Ben voilà. Alors, ça donne...
C'est un appel à l'objecteur de conscience en même temps, non?
C'est un objecteur de conscience. C'est l'objecteur de conscience même par excellence, si évidemment on cite aussi les autres qui l'ont suivi ou précédé. Mais oui, c'est un objecteur de conscience.
Ben merci beaucoup, David, pour nous avoir fait communiquer ce texte-là.
Ça me fait plaisir.
C'était Henri-David Thoreau.
Oui, Henri-David Thoreau, La désobéissance civile, publié récemment chez Typo, l'édition québécoise, ou encore au Mille et une nuits, comme je vous disais tantôt, une édition un peu plus bon marché, $5.50 environ, mais bon, en tout cas. Toujours est-il que le texte est le texte et qu'il faut absolument le lire. On dirait que ça a été écrit hier pour la crise actuelle.
Et c'est un grand classique de la littérature.
Oui, un grand. En fait, c'est ce qui fait les livres immortels, c'est que la pensée transcende les âges, oui. Et est d'une actualité criante à chaque siècle, et etc. Et je voudrais juste faire un dernier calembour. Thoreau parle qu'il ne veut pas contribuer à l'impôt. Il ne veut pas contribuer à payer ses impôts. En fait, je recommence. Thoreau ne veut pas payer ses impôts parce qu'il contribue par là à entretenir le sixième de la population esclave. Je ne sais pas aujourd'hui combien de pourcentage ou quelle partie de la population est esclave. Alors, c'est une...
c'est probablement ça, plus que ça.
Une actualité criante à lire absolument. La désobéissance civile, encore une fois.
Merci beaucoup, David.
Ben, ça me fait plaisir.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter une autre chanson qui a été composée dans le contexte du conflit actuel. Ça a été écrit par un gars qui a fait plusieurs chansons humoristiques autour du sujet, dont une, entre autres, sur Lynn Beauchamp, qui n'est maintenant plus d'actualité. Mais celle qu'on va écouter s'appelle « Loi spéciale », L'OIE. C'est de Maxime Galland. Et nous revenons ensuite avec Roxane et la loi 78.
Qui s'énerve quand le monde fait sur des casseroles? Qui c'est qui éteint son barbecue avec un peu de pétrole? Qui c'est qui offre d'amis son pas à l'Assemblée nationale? Qui c'est qui fait tellement d'agoraphobie que plus que 50, c'est illégal? C'est loi spéciale, c'est loi spéciale, c'est loi spéciale.
Et pas rejet, et juste. spécial.
Hey! Qui c'est qui préserve notre précieuse paix sociale? Qui c'est qui défend l'accès aux études collégiales? Qui c'est qui a des valeurs en or, mais si t'es pas d'accord? Qui c'est qui te casse à coups d'amende? Qui c'est qui te tasse à coups dans le ventre? C'est loi, 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 loi spéciale. C'est loi, 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 loi spéciale. C'est loi, 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 loi spéciale.
Elle est pas violente,
elle est juste spéciale.
Oui. Mes lois spéciales.
Cap, cap, cararap.
On s'en calisse.
Cap, cap, cararap.
Oui, loi spéciale.
Cap, cap, cararap.
On s'en calisse.
Cap, cap, cararap.
Donc, c'était Loi spéciale de Maxime Galland. Bonsoir, Roxane.
Bonsoir.
Donc, tu vas nous faire ce soir une revue, comme une recension des textes qui ont été écrits autour de la loi 78.
Ben, pas tout à fait une recension parce que ça se veut pas du tout exhaustif, mais un petit survol surtout des principaux points qui ont été mis en cause dans la fameuse loi 78, surtout venant du monde juridique, donc avocats, barreaux, etc. Je suis pas trop allée vers les différentes opinions émises à son sujet, puisqu'on s'en, ben, on s'en sort pas, quoi, puis ça demeure de l'ordre de l'opinion.
Il y a Paya qui est avec nous aussi. Bonsoir Paya, qui est allé au début.
Rebonsoir.
Je l'ai invité à se joindre à nous s'il avait envie de participer à l'entrevue. Donc, on t'écoute, Roxane.
Ben d'abord, j'avais envie de commencer peut-être par une petite mise en contexte de l'adoption de la loi elle-même, c'est-à-dire à quel moment elle est survenue à la greffe, parce que c'est quand même toujours intéressant d'avoir comme ça un peu de recul historique là, sur un événement qui se passe tellement vite. Personnellement, ces derniers temps, là, j'étais sidérée par la vitesse des actualités, même que parfois, en ouvrant le journal le matin, je me disais, bon, ben, pauvre, ça vaut plus le coup de le lire, c'est passé tellement de choses entre-temps que c'est déjà plus d'actualité quelques heures plus tard. Donc, rapidement, début de la grève en février dernier, suite au fameux dépôt là, de l'année d'avant qui avait été déposé par Bachan puis qui prévoyait déjà la hausse des droits de scolarité. Rapidement, en mars, il y a déjà plusieurs événements qui sont sur pied, entre autres le blocage du pont Champlain, la naissance du collectif Les profs contre la hausse là, qui s'est mis en pied, sur pied très rapidement, ce qui est aussi une nouveauté dans le mouvement puisqu'auparavant, la solidarité prof-étudiant lors de grèves étudiantes était plutôt rare, alors que là, ça s'est mis en place tout de suite.
Est-ce qu'ils ont posé plusieurs actions, le collectif des profs contre la hausse?
Il y en a eu quelques-uns. Je suis content de mentionner un entre autres, là, qui est peut-être pertinent dans ce cadre-là. Ensuite, on a assisté en mars à la grande manif du 22 mars, là, qui regroupait déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes.
On a parlé de 200 000 personnes, mais
à peu près,
dépendamment des journaux. 000,
oui, ça dépend où on puisse en information, en effet. En avril, les premières injonctions un peu partout, entre autres à l'Université Laval, il y en a eu. Arrestation de professeurs à l'Université du Québec en Outaouais, où ça a beaucoup brassé quand même, ce qui a augmenté la mobilisation, entre autres, des profs contre la hausse, qui, dans ce cadre-là, sont allés se livrer préventivement à la police, à la SQ à Montréal, en disant, ben, vous risquez de nous arrêter éventuellement, puisqu'on a des profs, alors on va venir tout de suite le faire. Jean Charest au Plan Nord qui fait ses fameuses blagues qui ont
la
blague de l'année, oui, ouais, qui a très mal passé pendant qu'il y a des émeutes à l'extérieur au centre des congrès. Peu de jours après, le 27, à la fin avril, la première offre du gouvernement qui a été rapidement oubliée, le fameux étalement sur 7 ans au lieu de 5, qui était une hausse la hausse, mais qui a été rapidement rejetée par tout le mouvement. En mai, début mai, on assiste aux émeutes à Victoriaville. En même temps, première entente de principe, qui n'en était pas une finalement, qui a été rapidement rejetée par les associations. Mi-mai, les fumigènes dans le métro à Montréal. Quelques jours plus tard, le 14, démission de la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp. On assiste à ce moment-là, à la fin mai, à plusieurs piquets de grève pour bloquer l'accès, entre autres dans les cégeps, Lionel Groulx et ailleurs, où ça brassait énormément.
Oui, parce que les étudiants contre la grève commençaient à voir leur session sérieusement. Là.
Oui, ben la tension montait.
En danger, alors ils voulaient absolument avoir accès à leurs cours. Là.
Exactement, puisqu'il y a beaucoup aussi fait augmenter la pression, c'est les fameuses injonctions qui ont été rendues de manière de plus en plus nombreuse par les tribunaux. Donc, les établissements se trouvaient coincés entre l'exigence de la Cour de donner accès aux cours à ceux qui avaient des injonctions, et de l'autre part, les votes de grève qui disaient, ben nous, on a voté démocratiquement contre, donc ça doit être respecté aussi. Donc là, la tension est montée quand même énormément à ce moment-là, et c'est dans ce contexte-là, donc le 18 mai, qu'a été adoptée la loi spéciale. Qui n'a pas mis fin à tout, hein, ça on le sait, parce que c'est passé bien des choses depuis. mais qui quand même a au moins sur les campus eux-mêmes mis fin aux éventuelles rencontres entre policiers, manifestants et professeurs.
Les étudiants, hein. Oui. Ouais. Tout à fait. Donc, c'était probablement l'objectif.
À court terme, oui, clairement, là, mettre fin, du moins, sur les campus à cette situation de tension qui était devenue carrément intenable. Mais bon, ça n'a pas empêché plus tard, le 23 mai, entre autres, le 500 arrestations à Montréal, 175 à Québec. Donc, le mouvement s'est amplifié, entre autres, s'est amplifié de manière citoyenne, comme on le disait tout à l'heure, le mouvement des casseroles.
Tu me rappelles la date de la loi 78?
18 mai.
18 mai.
Oui. Donc, il n'y a pas très longtemps, on est à peine début juin. Ouais. Donc, ça s'est fait...
Il y a trois semaines.
Il y a très peu de temps. Puis, je vous écoutais discuter là, avec David, puis vous demandiez s'il y avait donc actuellement des mouvements de désobéissance civile. Il faut quand même se rappeler, donc, elle est adoptée le 18 mai, puis rapidement, le mouvement des casseroles qui se met en place est en soi un mouvement général de désobéissance civile citoyenne, dans la mesure où des centaines de personnes dans la rue qui scandent la loi spéciale, on s'en calisse, et qui, de facto, enfin, a priori, serait une manifestation illégale qui devrait être...
Oui, parce
arrêté
que si
par
tu,
la police,
si
mais qu'il ne l'est pas.
Si tu nous rappelles exactement, c'est pas plus de 50 personnes sans avoir donné l'itinéraire, en fait.
Oui, c'est un des articles de la loi spéciale qui stipule qu'à plus de 50, on doit donner son itinéraire 8 heures à l'avance. Donc, c'est assez impressionnant de voir ce mouvement de désobéissance civile spontanée de la part d'un grand nombre de citoyens qui, donc, de manière consciente, parce que ça a été quand même très médiatisé, entre autres, cet fameux aspect de la loi du 50 manifestants, qui, donc, volontairement, et de manière très spontanée est sorti dans les rues en disant « Regardez, on est plus que 50, on ne faisait pas d'itinéraire, etc., etc. » Et le fameux qui est devenu un slogan, le vote de loi spéciale, on s'en calisse. Donc, on désobéit à la loi de manière spontanée et surtout consciente.
La fameuse question de l'itinéraire et de 50 personnes, ça a beaucoup marqué l'imaginaire et c'est ce qui a fait le plus réagir les gens. Mais en fait, la loi 78, c'est bien autre chose que ça.
Ben oui, puis c'est intéressant de voir, dans les différentes réactions que j'ai glanées à droite à gauche, comme je vous disais, surtout dans le milieu juridique, c'est loin d'être l'aspect de la loi qui est le plus questionnable. Au contraire, il y a à peu près personne dans le milieu strictement, enfin essentiellement juridique, là, qui questionne cet aspect-là de la loi. Entre autres parce que, comme on l'a aussi répété, il y a plusieurs villes qui ont déjà des dispositions semblables.
Un peu partout dans le monde.
Oui, tout à fait. Le jeune barreau de Montréal qui a émis un communiqué là, peu après l'adoption de la loi pour se positionner par rapport donc à ces dispositions. Note, entre autres, là, à cet effet-là, indique que pour lui, c'est pas du tout un aspect qui lui semble... trop discutable, entre autres parce que c'est des dispositions qui existent en Europe. Ça a été déjà étudié par là-bas, par la Cour des droits de l'homme et tout, puis ça n'a jamais été sanctionné. Donc, c'est pour le législateur, c'est quelque chose de correct de restreindre dans une certaine mesure les manifestations pour s'assurer de maintenir jusqu'à un certain point l'ordre public.
C'est qu'en fait, ça peut être demandé uniquement par des raisons de sécurité. Dans des grosses villes où il y a beaucoup de circulation, effectivement,
oui,
ça peut mettre en danger la sécurité des manifestants. En tout cas, on peut toujours prétendre que ça peut être pour des raisons de sécurité, l'histoire de l'itinéraire.
Oui, donc c'est toujours le rôle finalement du législateur d'établir un équilibre entre les lois existantes, puis de s'assurer de voir que les droits de chacun sont respectés, le droit à la sécurité, le droit de manifester, le droit de la liberté d'expression.
Donc, pour les juristes, qu'est-ce qui est plus questionnable dans la loi 78?
D'abord, il y a une chose qui a été mentionnée, puis c'est quelque chose qui se sent déjà dans le titre de la loi, qu'on n'a peut-être pas énormément rappelé, loi qui s'appelle « Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau post-secondaire qu'ils fréquentent ». Donc, il y a entre autres un collectif de professeurs en droit qui ont souligné le fait que la loi 78 présentait ce qu'ils appellent dans leur titre un odieux détournement de l'esprit des chartres. Eux, ce qu'ils mettent en lumière, c'est le fait qu'en principe, une loi spéciale est supposée impliquer de restreindre certains droits à certains groupes de personnes visées par la loi. C'est le principe même du droit spécial, c'est d'opérer une restriction de droits fondamentaux justifiée par le législateur, encore une fois, sous prétexte que d'autres droits plus importants peuvent être mis en danger, etc. Donc, eux, ce qu'ils trouvent très, très pernicieux dans la manière dont a été présentée cette loi-là, c'est que, finalement, le gouvernement a présenté la loi 78 comme visant à protéger l'accès au droit à l'éducation, comme le donne le titre. La loi vise à permettre aux étudiants de recevoir l'enseignement. Donc, c'est présenté comme n'étant pas vraiment une loi spéciale qui vient restreindre les droits et libertés, mais comme une loi qui vient finalement assurer permettre. D'avoir accès à un droit. Puis bon, dans le cas des injonctions, ça s'était déjà vu aussi auparavant. Le gouvernement n'a pas beaucoup parlé du fait qu'il ne respectait pas la liberté d'association et puis la liberté aussi de respect de vote pris en assemblée démocratique. Mmh. Et a essentiellement parlé du fait que, par le fait même, par les injonctions, on faisait respecter le droit à l'éducation de chacun des individus qui obtenaient des injonctions. Donc, eux, on l'a mis en lumière. Pour eux, comme ils le disent, cette manière de présenter les choses constitue une instrumentalisation des droits et libertés fondamentales par le politique qui détourne finalement l'esprit d'une loi spéciale pour la faire paraître comme étant une loi positive au lieu d'être ce qu'elle est par essence, c'est-à-dire une loi négative.
Oui, et les jeunes juristes aussi sont sortis dans la rue et ont manifesté pour ça. On a vu les juristes dans
la
rue.
Oui, ce qui est tout à fait exceptionnel. Certains d'entre eux disaient on n'est pas sortis depuis, je ne sais plus, 68, enfin depuis ceux qui étaient évidemment enfin moins jeunes parmi le groupe. Mais c'est des corps de métier qui, par définition, prennent leur temps puis sortent, ne se manifestent pas de manière publique pour des riens, bien sûr.
On a dit aussi que ça remettait en question le droit d'association. En quoi ça remet en question le droit d'association, la loi 78?
Oui, ça, c'est un point qui a été mentionné. Ça remet le droit d'association en question essentiellement à cause des très, très fortes amendes qui sont imposées aux associations étudiantes. La loi est assez claire là-dessus et est assez drastique. Merci. Attendez que je retrouve...
Puis le fait les aussi chiffres, qu'elle hein? rend mm-hmm. responsable des organisateurs pour des gestes posés par leurs membres.
Qu'ils n'ont pas connus, oui, en effet. Mais là, on va essayer de ne pas aller trop vite quand même, parce que chaque point est quand même en lui-même assez important. Pour ce qui est des amendes en question, une chose qui est assez troublante, c'est d'une part ce qu'on a quand même répété, c'est-à-dire le montant total des amendes elles-mêmes, là, qui sont de 7 à 35 000 pour les personnes, de 25 000 à 125 000 pour les groupes, etc. Mais aussi le fait que les amendes en question valent... attendez que je vous lise... Donc, quiconque contrevient à une disposition de l'article commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention d'une amende de 1 000 à 5 000. Donc, c'est pour chaque... Donc, il suffit de faire un blocage pendant 3-4 jours, puis tout de suite, l'association elle-même va être ruinée absolument ouais. financièrement. Vous voyez, donc c'est très, très, très démesuré. Ça a été dénoncé, entre autres, par le rapporteur de l'ONU et par Amnesty International. Et de là, évidemment, puis aussi des dispositions de la loi qui permettent au gouvernement d'obliger les universités à retenir les cotisations les cotisations des associations étudiantes.
Ouais.
Donc, moi, je trouve ça quand même étonnant de voir que, bon, on a en ce moment la commission Charbonneau contre la corruption qui est en cours, et puis... Le montant maximal qui peut être exigé d'un politicien ou d'un membre d'une organisation qui est reconnu coupable de corruption ou de trafic d'influence, l'amende maximale est de 50 000 $ pour ces gens-là, alors que pour une association étudiante qui est reconnue coupable d'avoir organisé une manifestation dite illégale, les amendes peuvent aller jusqu'à, c'est quoi, c'est 125 000 $
Oui, 125 000
$ Je trouve ça un peu inégal comme façon. Je trouve que le gouvernement libéral a tendance à s'en prendre de façon beaucoup plus drastique aux étudiants qu'à ses amis.
En fait, c'est clairement disproportionné à un point qu'on se demande si c'est même applicable. Faudra voir en septembre.
Ouais, exactement.
Mais ça devient presque... C'est-à-dire qu'on n'y croit plus tellement, c'est énorme. Puis c'est aussi beaucoup... C'est un point qui a été énormément souligné par les différents membres du corps juridique, c'est-à-dire le fait qu'au final, cette loi-là fait en sorte de remettre en question même le principe du droit. C'est-à-dire que les gens vont même plus croire en l'esprit des lois eux-mêmes quand le politique en vient à instrumentaliser de cette manière-là une loi spéciale. Donc, il y a la confiance totale du public qui est déjà assez basse envers les institutions politiques en général, voire envers les institutions judiciaires. Ben, elle est encore plus minée parce qu'il voit bien que, finalement, les lois que promulgue le gouvernement sont littéralement inapplicables et fondamentalement injustes. Un autre point qui a été mis aussi en lumière, c'est le fameux article 9 qui a été contesté par à peu près tout le monde, qu'il sera sans doute aussi éventuellement de manière légale, puisqu'on sait qu'il y a déjà des poursuites qui ont été mises en place là, pour faire invalider la loi elle-même. L'article 9, donc, qui indique que pour assurer la mise en œuvre des articles 2 et des articles 4 à 8, donc les articles qui finalement assurent le retour en classe là, au moment voulu, qui assurent que les professeurs seront dans leur salle de classe au mois d'août, septembre, etc., le gouvernement, sur la recommandation du ministère de l'Éducation, peut prendre toutes les mesures nécessaires, notamment prévoir les dispositions législatives et réglementaires qui ne s'appliquent pas et prévoir toute autre adaptation nécessaire aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions de toute autre loi et de ses textes d'application. Donc, ça donne à la ministre un pouvoir discrétionnaire absolument absolu.
Il y a comme une ouverture sur absolument toutes les lois qui existent là, dans la province.
Oui, hein? C'est restreint seulement dans la mesure où l'article indique que c'est pour faire adopter tel et tel article de la loi que la ministre a le droit de recourir à. Donc, c'est pas pour faire n'importe quoi, mais tout de même, c'est
champ d'application
est très large. Puis c'est sans doute également, bon, là, c'est un peu une extrapolation de ma part, mais c'est que aussi sans doute qu'il faut. Il y a à prévoir d'éventuelles frictions avec le corps enseignant lui-même qui pourrait éventuellement, bon, refuser le nouveau calendrier, les syndicats du côté professoral pourraient ne pas vouloir, bon, allonger les tâches de travail, etc. Enfin, même si jusqu'à maintenant, les professeurs se sont montrés très, très conciliants, mais bon, il y a quand même des limites. Certaines personnes pourraient refuser d'eux. Donc là, ça donne vraiment à la ministre tous les pouvoirs possibles.
Parce que c'est sûr qu'en ce moment, on n'en a pas du tout parlé de ça ce soir. La question est très vaste et complexe, mais effectivement, les professeurs, les syndicats de professeurs ont les moyens de dynamiter complètement la rentrée scolaire. Oui.
Ben, c'est-à-dire qu'ils pourraient l'avoir, mais dans les faits, la loi, justement, prévoit bien cela.
C'est ça.
Et s'assure de leur enlever tous les moyens d'action possibles, entre autres, compte tenu du fait que c'est non seulement les associations étudiantes, mais aussi les syndicats qui, dans la loi, sont visés comme étant éventuellement co-responsables des actes que pourraient commettre leurs membres.
Okay.
Vous voyez, donc la loi l'indique à plusieurs reprises.
Okay. Donc, c'est une loi qui vise à la fois les étudiants et le corps enseignant.
Oui, ben il y a des dispositions aussi qui concernent ce qu'ils appellent, je sais plus trop, les associés. Ils ne disent jamais le mot syndicat, c'est assez intéressant en soi d'ailleurs, que le mot soit pas... une association de salariés, c'est ce qu'ils indiquent.
Oh, wow.
Donc, doit prendre les moyens appropriés pour amener ses membres à se conformer aux articles 10 et 11 qui donc encadrent le retour en classe,
ouais.
Et ne pas contrevenir aux articles 13 et 14, etc. Et puis, dans la mesure où leurs membres le feraient tout de même, ben, ils vont être tenus responsables... les syndicats et les associations étudiantes.
Je trouve dommage qu'ils ne rendent pas co-responsables les membres du Parti libéral d'avoir été reconnus. On pense notamment à M. Tomassi. Hein, et cette mesure qui pourrait être appliquée...
Oui, ce serait intéressant, en effet.
Enfin, pour ce qui est de l'article 9, pour y revenir, donc il y a donc les jeunes juristes là, indiquent que ça viole carrément la souveraineté de l'Assemblée nationale. Enfin, ça, on va par-dessus l'appareil qui lui-même stipule les lois en donnant ce pouvoir discrétionnaire à la ministre là, de ne pas en appeler à l'Assemblée nationale, mais de pouvoir modifier des lois à son bon gré ou à ne pas les appliquer, ou etc., en fonction de l'objectif à atteindre.
Et donc ça, c'est un article qui devrait être critiqué par à peu près tout le monde.
Oui, celui-là, ça a été... ça a été souvent, enfin, la plupart des gens qui se sont prononcés l'ont indiqué à quel point c'était questionnable. Et surtout, ce qui est souvent aussi mentionné, c'est le fait que la disproportion entre l'objectif à atteindre, c'est-à-dire, bon, après tout, là, c'est pas non, enfin, on n'assiste pas, je sais pas, c'est pas un groupe de terroristes qui défile sur le Québec, là, il s'agit des étudiants qui veulent s'opposer à une mesure qu'ils jugent injuste. Donc, cet objectif-là, versus les moyens qui sont donnés et à la ministre et aux tribunaux, c'est complètement disproportionné. Puis c'est quand même, c'est un des principes fondamentaux du milieu juridique en général, de toujours justement jouer ce rôle d'équilibre pour équilibrer, bon, quel est l'objectif à atteindre, et l'important étant de prendre toujours des moyens qui sont proportionnés à cet objectif-là, de ne pas déraper. Autrement, c'est carrément, comme on le dit tout à l'heure, toute la confiance dans l'appareil juridique lui-même qui risque de tomber. Un autre article qui a été mis en cause, entre autres, par les jeunes, le jeune barreau de Montréal, mais d'autres également, c'est non pas donc le fameux article, là, de l'article 16 qui encadre la tenue de manifestation à 50 et plus, là, dont on a beaucoup parlé, mais celui qui lui succède juste un peu. qui indique qu'une personne, un organisme ou un groupement, donc l'article 17, groupement qui organise une manifestation, ainsi qu'une association étudiante ou une fédération qui y participe sans en être l'organisateur, doit prendre les moyens appropriés afin que la manifestation se tienne conformément aux renseignements fournis, au paragraphe précédent, le 50 itinéraire, etc., et le cas échéant, le deuxième, etc.
Je parlais tout à l'heure. Là, oui, c'est qu'ils se trouvent à être responsables de tout ce que font les gens qui se trouvent à être réunis.
Ce qui est frappant là-dedans, c'est pas seulement s'ils l'organisent et que finalement, par exemple, le trajet donné n'est pas respecté, mais le simple fait d'être présent sur place. Les membres
sont responsables. C'est impossible juridiquement, c'est pas possible, ce truc-là, ça tient pas.
Il y a plusieurs personnes qui ont noté le fait que ça remettait en cause le principe de responsabilité civile, parce que dans ce cas-là, vous êtes de facto tenu responsable d'actes commis par d'autres, ça retourne en quelque sorte le fardeau de la preuve de votre côté. Est-ce que vous êtes tenu de facto coupable? Même si c'est pas vous qui avez commis le geste, et là vous devez donc prouver que finalement c'est pas à cause de vous que ça s'est produit, mais c'est absolument. Puis on se demande encore une fois jusqu'à quel point c'est applicable, parce que comment prouver autant que les membres n'ont pas respecté, ils avaient dit qu'ils tourneraient à droite sur Berry, finalement ils sont tournés à gauche, qui a décidé, qui doit être tenu responsable, est-ce qu'on va donner donc une amende de 250 000 $ à l'association si ça se produit deux soirs de suite, etc., là, vous voyez. Donc ça, c'est un article qui a été énormément critiqué aussi également par le Barreau du Québec, là. Donc par des gens du milieu, quoi, pas juste par des...
Mais dans les faits, là, entre toi et moi, là, l'objectif de cette loi-là, c'est d'enlever totalement le droit de grève aux étudiants, là. C'est de dire que les étudiants n'ont plus, tout simplement plus le droit de faire la grève, peu importe, et pour toujours.
Peut-être qu'à terme, il y a certains journalistes qui ont souligné ce point-là, c'est-à-dire qui ont souligné le fait que c'est un peu un non-dit ou un non, le fait que ce soit pas légiféré, qui fait en sorte qu'au Québec, ce droit de grève-là pour les étudiants est reconnu depuis que les universités sont sur pied, quoi. Ce qui est aussi un peu une exception par rapport au reste du Canada,
c'est pas le cas ailleurs au Canada.
Donc certains ont dit, il semble y avoir une volonté du gouvernement Charest, finalement, de mettre fin à cette espèce de cas d'exception du Québec, qui reconnaît la chose, mais sans que ce soit vraiment encadré de manière juridique. Donc, on peut casser ce mouvement-là. Donc, c'est possible que ce soit la visée, mais c'est clair qu'à court terme, l'objectif clair est de faire en sorte qu'en septembre, tout le monde retourne sur les bancs d'école et que ce soit absolument impossible à ce moment-là de bloquer des entrées, de faire ce qui était fait là, en mai dernier,
au moment
où la loi
est passée. C'est beaucoup de préparation en vue de crise, de potentielle crise là, dans l'avenir, en septembre, par exemple.
Oui. Si vous avez l'occasion de la lire, c'est une lecture très, très éclairante. Puis on pense beaucoup... Enfin, moi, ça m'a tout de suite placé à l'automne prochain, parce que là, on s'entend, c'est un peu en stand-by pour le moment. Mais tout de suite, on se dit, il va se passer quoi en septembre?
Oui.
Alors que le gouvernement aura cette espèce d'énorme... Parce qu'on a appelé la loi Matraque, c'est pas pour rien, là. Mm-hmm. Puis vraiment, cette fameuse disposition d'une manifestation, de 50 personnes, c'est le moindre... On en a beaucoup parlé, mais
c'est
un des moindres aspects de la loi
à
bien des égards, là. Puis, c'est peut-être parce que c'est le seul qu'on vit en ce moment, parce que le seul qui soit applicable, même s'il n'a pas encore été appliqué, c'est aussi un fait à noter quand même.
C'est ce que j'allais dire. Il faut noter qu'elle n'a jamais été appliquée, cette fois-là.
C'est-à-dire que Sherbrooke a tenté de l'appliquer la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie à peu près. Il y a eu des manifestations là-bas où les manifestants ont été arrêtés en vertu de la loi spéciale. Donc là, les journaux titraient « Premières arrestations en vertu de la loi 78 », etc. Quelques jours plus tard, la ville a émis un communiqué pour dire « Finalement, les amendes émises ne seront pas en vertu de la loi spéciale et vont l'être en vertu, comme d'habitude, du 500.1 du Code civil. »
On a comme le sentiment qu'ils s'attendent à ce que cette loi-là ne soit pas validée.
Je ne sais pas si c'est une doute de la part du corps policier lui-même qui ne veut pas s'embarquer à ce point-là avec cette espèce de patate chaude, en quelque sorte, là, qui est déjà critiquée devant les tribunaux, qui est un peu pendante pour l'instant. C'est parce qu'en fait, ils en ont... Parce que ça aussi, ça a été quand même souligné, le fait qu'en soi, jusqu'à maintenant, pour gérer les manifestations, les policiers possèdent déjà dans l'arsenal législatif suffisamment d'outils pour faire tout ce qu'ils ont à faire, finalement, dans le cas de dérive, etc. Donc, en quelque sorte, ils n'en ont pas besoin. Ça leur donne des outils un peu inutiles.
Tout à fait.
Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, justement, le fait de, les policiers, les corps policiers vont déclarer une manifestation comme étant illégale si par exemple, le trajet n'a pas été donné 8 heures à l'avance, etc. Mais, cependant, ils vont arrêter les manifestants en vertu des lois municipales. C'est-à-dire que j'entendais un policier à Radio-Canada, je crois que c'est dimanche dernier, il disait, le journaliste leur demandait, est-ce que vous appliquez la loi 78? Il disait, non, nous, on ne l'applique pas, c'était le représentant du SPVM, il disait, non, nous, on ne l'applique pas parce que, bon, on a des gens à l'interne qui s'occupent d'étudier les lois, puis de voir jusqu'à quel point elles peuvent être appliquées, etc., avant de les mettre en action. Puis là, juste après, le journaliste lui demandait, la manifestation de ce soir, il dit, ah, elle est illégale parce qu'ils n'ont pas donné leur itinéraire 8 heures à l'avance. Donc, ils se servent des éléments qui font leur affaire, mais ils vont donner des contraventions en vertu des lois municipales.
Donc, à Québec aussi, ça a été le cas. Exactement. Je disais le récit d'une personne arrêtée, une manifestante, la semaine dernière, je crois. Puis qui était clairement une manifestante, donc très politisée, très au courant et tout. Donc, elle agissait elle-même un peu comme porte-parole du groupe de personnes arrêtées. Puis tout de suite, elle essaie de voir auprès de la police, bon, ben, est-ce que je peux me faire lire mes droits? Est-ce que vous pouvez me dire en vertu de quoi je suis arrêtée? Les policiers étaient très mal à l'aise. Puis, ils étaient encore de la même manière, les policiers les arrêtaient en vertu de la loi 78. Parce que la manif avait été déclarée illégale, mais ensuite les amendes émises l'étaient en vertu du Code civil, ce qui est déjà en soi très contestable, parce que bon, on vous arrête en vertu d'une loi, mais finalement votre amende vous la recevez en vertu d'une autre loi.
C'est ça, ça tient pas la route.
Oui, c'est ça, donc c'est déjà un beau ramassis.
C'est évident depuis le début de toute manière que toutes ces amendes-là vont être contestées et puis vont pas être payées très certainement.
Juste par
parce que, enfin, c'est d'un point de vue juridique lui-même, c'est très très contestable. Déjà le simple fait d'arrêter des gens pour une manifestation en vertu du Code civil est très contestable, puisque il y a une forme de hiérarchisation des lois qui existe déjà, la jurisprudence l'a déjà indiqué, ce qui fait en sorte que le droit de manifester prévaut sur le droit de circuler dans une rue en cas de manifestation. Donc le droit de manifester qui est assuré par la Charte des droits prévaut sur le Code civil dans un cas comme celui-là.
Le droit de manifester prévaut sur le droit de circulation des automobiles.
Ben, en principe, oui. C'est-à-dire que c'est une manière. Ça pourrait, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça pourrait être une manière pour les manifestants arrêtés jusqu'à maintenant de pouvoir contester les biens d'infraction émises. Parce qu'il y a déjà une note qui a circulé là, de Amnesty International qui, eux, dénonce énormément ces procédés-là, puis rappelle que le droit de manifester est au-delà d'un point de vue hiérarchique du Code civil, finalement. Parce que c'est évident qu'à chaque fois, enfin, c'est le principe de hiérarchisation des lois. Il y a une forme d'empiètement d'une loi sur l'autre. Si vous faites une manifestation, vous bloquez la rue. Donc, il y a certaines règles du Code civil qu'on ne respecte pas dans une circonstance comme celle-là. Mais le principe de hiérarchisation fait en sorte que, comme le droit de manifester est reconnu de manière plus haute que le simple droit de circuler, ben c'est cette loi-là qui va passer avant le simple Code civil. Donc, en principe, c'est pas suffisant dans un cas comme celui-là.
Il ne devrait pas y avoir matière à infraction, finalement.
Effectivement, tout à fait. Donc, c'est imminemment contestable. Puis là, ça le devient encore plus avec la loi 78, compte tenu de cette espèce de jeu de va-et-vient, des policiers qui sont très mal à l'aise, qui émettent des amendes en vertu d'un, et puis que finalement, c'est en vertu d'autres, etc. Ce qui, à mes yeux, là, je ne suis pas du tout juriste, mais ce qui me semble moi-même très, très contestable, puisqu'en principe, on vous arrête pour une chose, puis on ne vous arrête pas pour autre chose, finalement, une heure plus tard. Votre chef d'accusation a changé, là, c'est en soi absurde.
Pendant qu'on parle de ça, qu'est-ce que les organisations internationales reprochent précisément à la loi 78 quand on parle de l'ONU, par exemple? Qu'est-ce que l'ONU dit?
L'ONU et Amnesty International ont émis des commentaires qui se rapprochent quand même assez de ceux déjà émis là, que j'ai résumé tout à l'heure des différentes associations juridiques, barreaux, etc. Entre autres, ils insistent de la même manière là, que les gens du milieu juridique, ils insistent davantage sur le fait que le droit d'association, de libre association, soit fortement restreint, entre autres par les amendes émises, davantage là-dessus que le droit de manifestation lui-même qui serait restreint par l'article 14-15, enfin, du fameux là, 50 manifestants. Il souligne également que la loi 78 fait passer le fardeau de la preuve aux associations étudiantes. Donc, ce renversement de fardeau de la preuve aussi, d'un point de vue juridique, là, pour eux aussi, ça cause énormément de problèmes. Il juge également la disproportion des amendes qui peuvent décourager les étudiants d'exercer leur droit de manifester pacifiquement. Donc, encore une fois, la liberté d'association, de manifestation est remise en cause par là-même. Et du côté d'Amnesty International, de la même limitation apportée aux droits d'association, aux droits de manifestation, les sanctions financières qui paraissent trop élevées de manière alarmante, je cite. Donc, ça a vraiment pris tout le monde par surprise, en quelque sorte. Le renversement de la preuve également. Le fait de pouvoir être rendu responsable d'actes commis par d'autres personnes sans qu'on ait prouvé leur participation réelle aux actes fautifs. Donc, c'est des points qui ont vraiment fait sourciller tout le monde. En terminant, la fin du communiqué émis par Amnesty International indique « Il s'agit d'un projet de loi dont les mesures sont discrétionnaires et qui ouvrirait la voie à une application arbitraire. » Donc, ça donne beaucoup trop de pouvoir et à la ministre et aux policiers et à tout le monde, quoi, contre des associations étudiantes, contre des mouvements pacifiques, contre de la libre association.
Et il y a de facto une réaction de peur, hein? Le mouvement des casseroles a comme été une manière de détourner, de s'exprimer de manière différente que par les manifestations étudiantes, parce que on sent, en tout cas à Québec, c'est parfaitement clair, là. On fait des votes chaque soir pour savoir si on doit transmettre l'itinéraire ou pas. Et si on ne le transmet pas, il y a une partie des gens qui ne manifestent pas. Parce
qu'ils
ont peur.
Oui, c'est vrai. Quoique, en quelque sorte, c'est un peu... Moi, j'ai assisté quelques... reprise là, à ces votes d'Assemblée populaire, là, qui en soi constituent un geste fort, c'est de démocratie directe dans la rue.
C'est très intéressant.
C'est très intéressant comme mouvement spontané. Ceci dit, il y a quelque chose, à mon sens personnel, d'un peu absurde dans tout ça, dans la mesure où que l'itinéraire soit ou non transmis aux policiers à ce moment-là ne change rien au fait qu'on est on peut de toute manière être considéré comme une manifestation illégale, puisque le trajet n'est pas remis 8 heures à l'avance.
Et puisque il y a plus de 50 manifestants également.
Oui, oui, donc de facto, tu es illégal en principe. Après, puis ça montre encore cette espèce de tergiversation du corps policier. Ouais. Qui lui-même, en quelque sorte, ne respecte plus la loi, enfin, ne la respecte pas by the book dans un cas comme celui-là. Ben, on veut bien tolérer, si, à Montréal, c'est pareil, bon, vous êtes illégal, mais on vous tolère jusqu'à ce qu'il y ait des bris ou de la casse. Ça a été aussi vu la dernière manif, là, le 22 mai, où le trajet avait été donné, les membres entre autres des gens de la classe, en fait, des manifestants, qui ont tout de suite dévié du trajet. Donc, oui. En principe, la manifestation, dès le début, était illégale. Les policiers ont tout de suite quand même, bon, fermé les yeux, etc. Donc, on joue énormément avec la loi. Puis, là-dedans, il y a carrément la confiance en la loi elle-même, oui. Là, qui est remise en cause. Puis ça, c'est quelque chose qui fait énormément peur là, aux différents juristes qui se sont prononcés sur cette loi-là. Parce que c'est la règle de droit elle-même, enfin la perte de confiance dans la règle de droit, tant du point de vue des citoyens, du gouvernement, etc. Oui. Puis il y a aussi une autre clause dont on a moins parlé, qui me semble importante à mentionner également, c'est l'article 25, un des derniers articles de la loi. Ça a été mentionné quand même, entre autres par le barreau, qui en fait mention un peu. Il y a un collectif d'auteurs là, qui a publié un article qui s'appelle « La face cachée de la loi spéciale sur l'article 25 en question » qui concerne les recours collectifs. C'est une disposition très, très particulière de la loi qui, en fait, vient changer les conditions nécessaires au fait d'intenter un recours collectif. L'article en question dit que malgré l'article 1003 du Code de procédure civile, lorsqu'une personne qui a subi un préjudice en raison d'un acte posé en contravention à l'un ou à l'autre des articles 10, 11, 13, 14 exerce un recours collectif prévu au livre 9 du Code de procédure civile, le tribunal autorise l'exercice du recours collectif s'il est d'avis que la personne à laquelle il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. En fait, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on se demande, là. Comme l'indique l'article en question que je citais tout à l'heure, cet article permet à une personne qui désire intenter un recours collectif contre un professeur, par exemple, qui refuserait de donner un cours, ou contre quiconque entraverait l'accès à ses cours. Bon, on se reporte là, évidemment, en septembre prochain. L'article permet de franchir l'étape de l'autorisation du recours collectif, puisqu'en principe, il y a des conditions qu'il faut démontrer un certain nombre de choses pour pouvoir intenter un recours collectif. Donc, il n'a qu'à démontrer que la personne à laquelle il entend attribuer le statut de représentant, comme le dit la loi, est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. On élimine ainsi, là, je continue à citer l'article en question, on élimine ainsi les trois autres critères d'autorisation d'un recours collectif, qui sont pourtant plus exigeants à satisfaire. Entre autres, il y a là-dedans l'existence de questions communes à l'ensemble des membres du groupe et l'apparence sérieuse de droit. Parce qu'évidemment, bon, ne peut pas qui veut intenter un recours collectif contre qui, n'importe quoi. il faut d'abord prouver un certain nombre de choses, entre autres qu'il y a une apparence sérieuse de droit et des questions importantes qui sont mises en cause.
Excuse-moi, j'ai de la misère à te suivre. Est-ce que ça permet plus facilement?
Exactement. En fait, c'est qu'on enlève des conditions nécessaires à être remplies. La seule chose que la personne aura à prouver, c'est que le représentant qu'on va nommer représente de manière suffisante les différentes personnes associées en tant que groupe, parce que le recours collectif, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'associe à plusieurs personnes, comme dans le cas du recours intentif intenté contre les compagnies de tabac. Un certain nombre de citoyens qui jugent qu'ils ont tous été lésés par les compagnies en question, dans leur santé, qui ont été trompés, etc., vont intenter un recours collectif. Et l'article fait en sorte, en fait, qu'on peut... en quelque sorte, enjamber des dispositions du Code de procédure civile qui encercle le droit d'intenter un recours collectif et qu'on n'a plus qu'une seule chose à prouver pour pouvoir l'intenter, c'est de montrer que le représentant de notre groupe, en tant que demandeur, là, nous représente de manière suffisante. Et tous les autres étapes, entre autres de démontrer qu'il y a vraiment...
Ça sert à quoi, ça?
En fait, ce que ça sert à faire, c'est entre autres à continuer quelque chose qui était déjà en place... pendant ce printemps, c'est-à-dire d'augmenter, c'est-à-dire de continuer à judiciariser le conflit étudiant, mm-hmm. comme on a vu avec le cas des injonctions. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se règle de manière politique, ce qui risque d'arriver, puis ça c'est un peu prévu par la loi, c'est que des étudiants qui seraient lésés dans leur droit à l'accès. C'est presque, enfin, une espèce de clé en main de la part du gouvernement aux éventuels étudiants lésés dans leur droit d'avoir accès à leurs cours. Ils leur disent, vous avez qu'à intenter des recours collectifs contre les profs qui vous donneront pas vos cours ou contre les étudiants qui vous bloqueront l'accès aux cours. Vous aurez même pas besoin, finalement, de prouver un certain nombre de choses pour montrer que vous êtes justifié à intenter un recours collectif. On vous le donne clé en main, vous aurez rien à prouver, vous aurez droit à accès aux tribunaux tout de suite. Puis ça a été énormément critiqué, ce qu'indique par cet article-là. Ça a été passé sous silence, d'où l'article, la face cachée de la loi spéciale.
Oui, moi, j'étais pas au courant de cet article-là.
Puis l'article est intéressant dans la mesure où il souligne d'une part que cette disposition de la loi spéciale crée deux classes de citoyens. Ceux qu'on peut poursuivre facilement, c'est-à-dire tous ceux qui auront désobéi aux articles en cause, en recours collectif, et les autres. Puis ça, c'est quand même une atteinte importante aux droits fondamentaux, dans la mesure où, comme ils l'indiquent eux-mêmes, il s'agit d'une atteinte au principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, si vous êtes professeur, vous risquez plus facilement d'être poursuivi de recours collectif que si vous êtes, je sais pas, une tabatière ou une grande compagnie qui lésait ou une compagnie minière ou etc. Dans ce cas-là, les gens qui vous poursuivent vont en prouver un certain nombre de choses pour simplement avoir accès aux tribunaux puis se constituer un recours collectif. Alors que dans le cas de la grève étudiante, ils auront vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un recours collectif clé en main, en quelque sorte. Ça ouvre la porte à l'utilisation de la procédure civile comme moyen d'intimidation. C'est ce qu'indiquent les articles. Puis c'est très, très juste. Puis c'est sans doute, enfin, comme je l'ai dit, un prolongement de ces différentes injonctions qu'on a vues au printemps, mais qui risque, si ça s'avère, d'être amplifié. Mais tu voulais dire quelque chose, Pierre?
Je me demandais seulement si finalement cet aspect-là de la loi spéciale ne serait pas susceptible de se retourner contre le gouvernement. Je me demande s'il n'y a pas des étudiants qui manifestent, qui pourraient se servir de ça pour intenter des poursuites contre divers agents, par exemple... les forces de l'ordre, ou je sais pas, est-ce qu'il y a pas...
C'est difficile, parce que l'article de loi est circonscrit, c'est-à-dire qu'ils indiquent bien, puis c'est ce que fait une loi, c'est le principe même là, d'un code de loi, c'est lorsqu'une personne qui a subi un préjudice en raison d'un acte posé en contravention aux articles 10, 11, 13 ou 14.
D'accord.
Donc c'est vraiment simplement dans ce cadre-là, c'est-à-dire que si on vous bloque l'accès aux cours... ce cas-là, vous aurez droit à un recours collectif facilité, mais pas dans d'autres cas. Puis d'où ce commentaire là, des auteurs en question qui indique que ça crée carrément deux classes de citoyens, ceux qui peuvent facilement être poursuivis parce qu'ils auront désobéi, entre guillemets, à ces articles de loi-là qui assurent leur retour en classe, et les autres pour lesquels la loi régulière va rester... va continuer à faire office de loi.
Bon, ça semble assez tordu, mais enfin, on verra ce que notre cours de justice va dire.
Le meilleur conseil que je prenais à tout le monde, c'est de la lire, cette fameuse loi. Oui. Enfin, elle est disponible sur Internet, c'est facilement accessible. Puis, enfin, c'est pas forcément facile de lire un texte de loi, mais c'est loin d'être... c'est plus facile que le code de l'impôt, j'imagine. C'est quelques pages seulement, puis vous serez doublement éclairé.
Ben, merci beaucoup, Roxane. On merci va voir Catherine. Ce que les cours de justice vont finalement décider. Est-ce que tu connais la date ou ça va passer en cours?
C'est au courant de l'été, mais je saurais
pas. Ça va être avant la rentrée scolaire?
Du moins, parce qu'il y a deux recours là, qui ont été intentés, dont un qui concerne la question de l'applicabilité de la loi.
Okay.
Donc, celui-là devrait certainement... j'ai oublié le titre exact, là, l'intitulé exact, okay. Mais c'est quelque chose comme... ils veulent vérifier, finalement, si la chose est applicable et, si possible, mettre un okay. frein à son application.
Donc, ça devrait être fait avant la rentrée scolaire.
Oui, donc, on a bien hâte de voir comment le milieu juridique va se positionner
en là-dessus. Effet. Merci, Roxane. Merci, PA.
Merci.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter une pièce de Viso intitulée, si je le prononce bien, Kaufhaus. Et on va revenir ensuite avec Jean-Philippe qui va nous parler de sa vision de l'après-crise. À tout de suite. Alors, nous voilà de retour. On va se demander maintenant, en compagnie de JP, si toute cette manifestation, si tout ce branle-bas va se réduire finalement à une espèce de grand carnaval qui aura duré pendant 4 mois, et si on peut s'attendre peut-être à avoir des résultats concrets après ça. Bonsoir, JP.
Bonsoir.
Tu nous as fait écouter d'abord une pièce de Wieso intitulée Coffre Charles. Pourquoi tu as choisi cette pièce-là?
J'ai choisi cette pièce-là. En fin de compte, c'est un groupe de punk allemand qui font un ode à un dissident politique allemand qui s'appelait Rudi Dutschke, qui était actif dans les années 70-80, plus fin 70. Puis lui, c'était leader étudiant, dissident politique. Et un jour, on l'a retrouvé mort. Et en fait, la version officielle, c'est qu'il se serait suicidé. Et plus dans l'imagerie populaire, que ça serait un meurtre politique effectué par la police secrète allemande.
Toi, JP, tu participes au mouvement de mobilisation depuis quand même un certain temps. Tu as vu tout ça évoluer avec du passage aux étudiants, à la mobilisation citoyenne. Et tu t'es mis à réfléchir et te poser la question si on allait déboucher sur quelque chose.
Oui, mais c'était beaucoup mes questionnements. J'ai été plus actif la semaine passée, quelques temps. J'ai vu à l'intérieur même des manifestants qui m'ont des manifestations et des gens qui sont à l'intérieur qui m'ont fait aussi poser beaucoup de questions et voir aussi que cette mobilisation-là a différentes facettes puis que je voyais ce que je me suis beaucoup aperçu, c'est que les à l'intérieur même des manifestants ou de ceux qui sortent dans la rue, il y a des grands questionnements. Il n'y a pas une unicité claire qui est produite. Et c'est de là que je me suis posé la question, voir si ce mouvement-là, je vis à Québec, donc à Montréal, je sais que ça brasse un peu plus, qu'il y a un peu plus... les gens sont plus... disons, sont plus désobéissants par rapport à l'ordre établi, tandis qu'à Québec, c'est plus calme. Et c'est à partir de ça, je me suis posé la question, voir c'est quoi la fin de ça? Est-ce que ça va apporter un réel changement dans la société dans laquelle on vit actuellement, ou que ça va seulement s'essouffler et devenir une grande fête foraine? Donc, il fait beau dehors, on peut aller se promener avec nos enfants et crier un peu notre colère par rapport au système, mais que finalement tout ça va s'essouffler et apportera rien. Et à partir de cette idée-là, j'ai vu plusieurs problématiques. Premièrement, je viens juste d'en parler.
La diversité des intérêts.
La diversité des idéologies, même à l'intérieur du mouvement. Critique du plan Nord, les droits de scolarité, contestation de la loi, des anticapitalistes, contre la banque, contre la police, contre Jarrett. Figure emblématique. Il n'y a pas d'individu qui sort du lot, qui est capable de rassembler tout le monde. Il n'y a pas d'individu rassemblant.
La fameuse image du leader.
Pas seulement un leader, mais un groupe dirigeant, pour plusieurs personnes.
Qui permettrait à ce que tous les intérêts se dirigent vers le même objectif.
Le même objectif, parce que là, il y a eu les leaders étudiants qui ont été beaucoup médiatisés, mais ensuite, à part ces trois leaders-là qui sont là seulement pour la cause étudiante, ce qui se produit présentement, qui est beaucoup plus une contestation sociale et du système dans lequel on vit, il n'y a aucun groupe ou aucun individu qui sort du lot.
Non. À Montréal non plus, d'ailleurs. Hein?
Oui. Il y a aussi une discordance assez flagrante dans le moyen pour atteindre ces objectifs-là. Il y en a qui vont beaucoup par rapport à la violence directe. À Québec, on le voit pas.
Non.
On le voit nécessairement pas. Il y a des obéissances civiles qui en sont très, très minimes.
C'est timide.
C'est très timide à Québec. Il y a beaucoup d'actes de présence. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont là seulement pour acte de présence, et le seul fait d'être présent leur suffit dans leur contestation.
Oui.
Et il y a les casseroles qui... ce qui n'est même pas un acte de présence. Tu me promènes dans une manifestation et les gens vont soit applaudir à travers leur fenêtre ou seulement donner trois, quatre coups de casse. Les spectateurs qui appuient la cause, mais ne sont pas prêts à plus que donner que 30 secondes de leur temps. Ça m'a fait pas. En fait, là, je suis rendu à un autre point de vue à un autre point où qui me fait pencher pour pourquoi, à partir de ces idées-là, pourquoi ce mouvement-là va seulement s'essouffler, que ça ne ouais. change rien. Ça ne changera absolument rien à l'intérieur de la société. Et c'est aussi c'est un problème de rapport de force entre les instances, les individus, les institutions qui règnent sur la société, qui dirigent notre société, oui. qui règnent sur les empires médiatiques, qui règnent sur les empires de capitaux, qui règnent au niveau politique. Et ceux ont beaucoup plus de pouvoir violent par rapport à la société. Et violent, oui. je veux pas seulement dire une police qui maltraite quelqu'un, mais qui a une violence par rapport à la peur, par rapport à la crainte des arrestations, par rapport à la crainte d'une perte salariale, qui est une crainte aussi il y a plusieurs manifestations qu'on, dès qu'elle était déclarée illégale, on perdait beaucoup de manifestants parce que
les gens ont peur.
Les gens ont peur. Ils ont peur seulement de se faire arrêter, ils ont peur d'avoir des amendes, ils ont peur de passer dans les médias.
Oui, 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 qu'on les voit à la télévision en train de se faire arrêter, aussi oui. bête que ça.
Et aussi, ce qui m'apporte un autre truc aussi, qui est le nombre des manifestants. Le nombre de manifestants, même par rapport à ceux qui sont seulement prêts à faire acte de présence ou à se présenter dans la rue et marcher avec nous, on n'est pas assez nombreux à Québec. Le nombre est oui. trop faible pour qu'il y ait des véritables démarches pour pouvoir faire craindre le gouvernement, faire craindre les institutions, qu'il y ait un réel danger pour eux. Donc, pour eux, s'il n'y a aucun danger, il n'y a aucune raison de changer le système, il n'y a aucune raison ou de, ouais. de partir, de laisser le bateau vide ou oh oui. de changer quoi que ce soit à l'intérieur du système dans lequel on vit, que ce soit médiatique, gouvernemental ou n'importe quel, le plan Nord, l'île anticostiste, on ne peut pas faire reculer ça au nombre qu'on est. Et un autre point de vue, un autre point par rapport à ce nombre-là, c'est que le nombre de personnes qui sont prêtes à faire des dissidences politiques ou qui sont prêtes à aller un peu plus loin dans l'utilisation de la violence contre l'État sont encore moins nombreux et ils sont seulement une petite partie. Donc, ceux-ci n'étant ni appuyés dans leur dissidence ou très peu appuyés dans leur dissidence, de facto par le nombre, ne peuvent pas non plus changer les choses, ne peuvent pas avoir un réel impact sur toutes ces institutions ou instances.
À Montréal, les manifestations ont un impact économique. On le voit en ce moment sur les festivals et sur la vie économique de Montréal. Donc ça peut faire une certaine pression sur les gouvernements.
Ça sert de pression.
Mais à Québec, effectivement, il n'y a rien du tout. Là. Ces manifestations-là sont c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est vraiment...
À part le bruit des casseroles qui vont déranger certains dormeurs, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait... Quelles sont nos armes contre... Oui.
Quel impact on peut avoir sur les
oui,
autorités?
Mais c'est surtout quelles sont nos armes? À Québec, on n'a aucune arme à part se faire arrêter en masse. C'est la seule chose qui a fait du mal à l'image de la police ou à l'image du système en place. C'est un peu les arrestations de masse de personnes pacifiques.
Oui. Et encore là, jusqu'à quel point ça fait du mal?
Jusqu'à quel point que ça fait du mal, parce que plusieurs étaient bien contents que les salles étudiants et salles communistes de gauche se fassent arrêter. Mais il y a eu quand même les deux arrestations de masse qui s'est produit dernièrement lors des manifestations. Je parlerai pas de celle du groupe de féministes qu'on manifesté, qui se sont faites aussi arrêter. Mais les deux dernières, les deux manifestations suivantes, le nombre de manifestants avait doublé ou triplé, mais il y avait déjà à Québec un appel ou un retour à l'ordre et de donner le trajet, parce que là, on veut pas se faire arrêter, puis on veut que tout reste légal, puis ça a appelé une certaine forme de sympathie dans la population, mais cette population-là n'est pas prête à continuer dans la même malgré qu'elle soit très très minime, cette désobéissance civile-là applique certaines conséquences par rapport aux individus qui sont fait arrêter, les recours collectifs par rapport aux amendes, se passer 3 heures en état d'arrestation, des trucs comme ça, mais ça effraie beaucoup les gens.
Ça prend beaucoup, beaucoup d'indignation pour faire sortir le citoyen de chez lui, et ça prend pas grand-chose pour lui faire peur et qu'il rentre ensuite.
Qu'il rentre dans les rangs.
Je pense que c'est comme ça depuis toujours.
Oui. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je ne crois pas, au moins qu'il y ait que le mouvement devienne plus radical à Québec, qu'à Québec, il ne produira rien. Et c'est pas à partir de Québec que ça peut se produire. Si Montréal se radicalise encore plus et qui puisse faire mal à l'économie de Montréal, donc là ça a des réels impacts.
Oui, c'est ça.
Ici à Québec, je ne crois pas qu'il va avoir de réels impacts ou des impacts suffisants pour faire bouger les autorités.
Donc, ça a l'air quelque chose de très impressionnant quand on regarde ça à la télévision, le mouvement des casseroles à travers toute la province et partout. Mm-hmm. Mais en réalité, l'impact que ça a sur les autorités, c'est vraiment, vraiment, vraiment minime.
Oui, très minime.
Donc, on y va pour un grand carnaval duré 4 mois ou 5 mois. Merci beaucoup, JP. C'est un petit peu déprimant, mais c'est une réflexion intéressante.
Oui. Je continue à aller dans la rue, pareil.
C'est bien. On va faire une dernière pause musicale avant de conclure. On sait qu'on n'aura pas d'élection cet été. Alors, on en espère à l'automne. Mais évidemment, on n'est jamais sûr de rien. Alors, on va se faire plaisir et on va écouter une pièce de Carquois, Le coup d'État.
Au sol, c'est l'air là d'une tête, d'une tête basse et blême, celle qui traîne et porte le teint d'un parvenu, d'une course de rattrapage, du cœur qui tend la voie d'usage, un va-et-vient de temps en haut, celui qui me torture, me fraude, mais le pas inconstant, qui cherche le marche-pied, mais qui saute à temps. Souffre étendu là où il est permis, à quatre pattes et bouffe ce que l'homme lance au défi. Mais j'ai durement terni depuis nos derniers baisers. J'ai vaguement pris le temps qu'il faut pour expier.
Je me dicte les actes, me tremble et m'attaque sous prétexte de toi.
Alors voilà, c'était la dernière émission de la saison. J'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que ça a peut-être permis d'éclaircir certains points en ce qui consiste cette mobilisation étudiante et citoyenne qui se déroule au Québec depuis 4 mois, ou en tout cas on espère que ça a pu susciter quelques questionnements. On va se retrouver en septembre, normalement, si tout va bien. Je remercie Gab Paquette pour la composition de la musique thème de l'émission. Je remercie David qui nous accueille à sa librairie le premier lundi de chaque mois. Merci à tous mes invités de ce soir, PA, Samuel, Benjamin, David, Roxane et Jean-Philippe qui ont travaillé très fort pour vous offrir cette émission. Je remercie Anaëlle à la mise en onde et enfin, le dernier, mais non le moindre, le seul et l'unique, Big Nick, sans qui rien ne serait possible, car c'est lui qui nous accueille sur son site web Radio Fiat Lux. Merci, bonsoir.